Je vous propose qu'on commence. Tout d'abord, merci de votre présence, d'avoir répondu présent à cette table ronde. Donc, le rythme créativité territoire, je vous le donne rapidement. C'est les journées d'automne tous les ans, donc 19, 20, 21 ou 20, 21, 22. Cette année, c'est 21, 22, 23. Ça tombe comme ça, c'est un mercredi, jeudi, vendredi. Donc, on vous enverra le programme, vous verrez. Là, donc, ce sont trois journées assez riches et assez denses avec des gens de toutes les régions, voire même de régions européennes, puisqu'on fait venir un Suisse qui a lancé depuis plusieurs années dans le canton du Jura une semaine de la créativité qui dure une semaine. Donc on verra son témoignage, mais vous verrez, il y a plein d'autres témoignages sur la relation avec l'entreprise aussi. Entre autres, on essaie de mettre pas mal les entreprises dans le coup de notre démarche, notamment à travers le CJD. Donc ça, c'est les journées d'automne. Ensuite, le reste de l'année, on fait des tables rondes comme celle-ci. À la demande d'ailleurs, là c'était à la demande de Didier Moreau qui, j'en profite d'ailleurs pour l'excuser cet après-midi, a été retenu par ailleurs, mais suit toujours avec beaucoup d'intérêt tout ce que nous faisons. Et donc ces tables rondes sont des petits formats, comme celui de cet après-midi. Les prochaines, il y en aura deux autres, une fin novembre sur le numérique, donc toujours, c'est toujours la même question, c'est on prend un objet spécifique et cet objet, on essaie de voir comment il s'articule avec notre démarche créativité territoire, c'est-à-dire au fond, est-ce que le numérique participe de la créativité des territoires ? Comme cet après-midi, on va voir les lieux culturels qui sont ici présents, certains d'entre eux, participent-ils à la créativité des territoires ? Et évidemment, le débat a lieu avec vous et dans la salle, il y a même aussi des gens qui sont aussi calés que ceux qui peuvent être à la tribune, donc ça peut être intéressant l'échange. Donc fin novembre, numérique, créativité, territoire, et début décembre, climat, créativité, territoire. Donc là aussi, c'est la question du climat vu sous l'angle de la créativité des territoires. Donc voilà pour cette année, ça sera déjà pas mal. Et l'an prochain, ben les journées d'automne, ça sera les cinquièmes, auront lieu les 19, 20 et 21, puisque ça tombe comme ça. Mais entre-temps, il y aura des tables rondes. Si vous avez d'ailleurs des suggestions à nous faire, on est preneurs. Mais on a aussi quelques idées, je pense que, entre autres, quand je dis ça, c'est que je pense que Didier en a pas mal. Donc on essaiera de répondre à ces idées. Voilà. Donc sans plus tarder, je vais donner la parole à nos intervenants. Et en commençant peut-être par justement une illustration de ce que je vous disais à l'instant sur la relation entreprise-territoire, notamment grâce à Jean-Marc Neveu qui a maintenant une entreprise à Châtellerault, une entreprise de plasturgie de 18 salariés, qui a été président du CJD. On développe toute une stratégie de relation entre l'entreprise et la culture. Et juste pour l'anecdote, hein, il y a environ un mois et demi, j'ai fait une réunion avec lui, avec sa complicité. Hein, c'est pas du tout, on ne lui impose pas. Il y avait une professeure de latin, un artiste, une philosophe. Enfin voilà, on essaie de marier pour y avoir des photographes. J'en vois un dans la salle. Voilà, il y a aussi un directeur de parc d'exposition qui est tout à fait intéressé par ce que nous représentons les uns les autres, puisqu'il a réintroduit le théâtre de foire à sa foire de printemps, on peut dire ça comme ça, plus que de printemps peut-être, et il lance la foire d'automne, mais tu nous en diras quelques mots, parce qu'il y a quelques surprises intéressantes, je pense qu'il y a notamment il y a de la philo et du rock'n'roll, donc ça peut être intéressant de voir ça en même temps. Donc Corentin Brichon va nous présenter donc Mécène Loire, qui est une illustration, je crois, parfaite de ce lien entre entreprise et culture, et ensuite on verra des lieux culturels ou des formes culturelles qui peuvent être intéressantes. On n'a pas la prétention d'avoir tout recensé, il pourrait y en avoir d'autres, mais les journées d'automne seront là aussi pour compléter, puisque la librairie sera tenue par l'Esprit Nomade, qui est une librairie nomade de Courson-d'Aunis, qui se balade dans le département et qui vend ses livres à travers ça. Voilà, donc Monsieur Brichon, à vous. Je vous laisse le soin de vous présenter par la même occasion.
Bonjour, donc Corentin Brichon, chargé de mission Chambre de commerce et d'industrie de Maine-et-Loire à Angers. Je m'occupe de tout le pôle mécénat partenariat de la CCI qui comprend trois actions distinctes, la fondation Mécénat-Loire sur laquelle on va avoir vraiment l'occasion de revenir plus en détail, le fonds de dotation Mécénat-Élite Anjou qui est un autre outil de financement du mécénat et qui a plus pour objet le sport de haut niveau, notamment à travers la mise en relation de sportifs de haut niveau, d'un haut niveau minimum national, avec des entreprises, le temps de stage ou d'emploi qui peuvent être aménagés en fonction des heures d'entraînement, des périodes de compétition. Et puis également une association qui s'appelle le Pôle Mécénat Pays de la Loire, qui est une, pour le coup plutôt une plateforme d'échange de bonnes pratiques. On ne délivre pas de financement. L'idée, c'est plus de mettre en relation les différents acteurs qui sont sensibles à la thématique du mécénat, associations, collectivités territoriales et puis entreprises évidemment via du conseil, du lobbying également, et puis l'organisation d'événementiels comme les rencontres régionales du mécénat qu'on organisait en mai dernier à Angers. Alors pour la Fondation Mécéné-Loire, je vais commencer avec une introduction en vidéo qui va peut-être vous permettre un petit peu de mettre déjà des noms, enfin des visages, des noms sur des visages, les visages des chefs d'entreprise qui font partie justement de cette fondation.
Mécéné-Loire est une fondation d'entreprise d'un type nouveau, née en 2007 à l'initiative de la Cécile Mécéné-Loire. Durant 5 années, nous avons soutenu de très beaux projets qui ont vu le jour à des succès de plus d'une centaine. Fort de cet élan, nous avons décidé de relancer Mécéné-Loire en 2012 pour 5 années supplémentaires. Notre histoire est celle d'un voyage autour du Mécéné-Loire.
S'investir dans la Fondation Mécéné-Loire, c'est une ouverture sur des domaines d'action comme la culture, l'environnement, la solidarité. C'est aussi associer ses collaborateurs et partager avec eux cette dimension humaine dans les projets.
C'est pour moi l'opportunité de revenir à ce monde qui m'a passionné, ce monde de la culture, dans lequel j'ai baigné pendant toute ma formation initiale de plasticien. Et c'est également, de manière du coup tout à fait légitime pour moi, de faire cette passerelle entre ce monde de la culture et ce monde de l'entreprise dans lequel je baigne aujourd'hui et qui ont tellement à s'apporter mutuellement.
En tant que représentante des salariés, mon objectif est de faire rentrer la culture dans nos entreprises auprès des équipes.
Participer à la création de la Fondation Mécéné-Loire nous a semblé être une suite logique de notre engagement sociétal et nous permet de contribuer à la valorisation du patrimoine artistique local.
J'ai choisi de participer à la Fondation Mécéné-Loire qui est unique en France. Ce qui me touche particulièrement, c'est que les projets sont pertinents, innovants, avec un fort rayonnement sur le Maine-et-Loire.
Le Festival de Jazz de Bushman, c'est faire découvrir le jazz sous toutes ses formes, aussi bien avec des amateurs qu'avec des professionnels. Et tout style confondu, ça va d'un jazz traditionnel à un jazz plus sophistiqué, voire même de la musique contemporaine. La Loire est une source d'inspiration pour moi. Je suis moi-même musicien et jouer devant cette rivière, on pense à de belles choses. Il y a un centre à Bushman qui s'appelle Pastel de Loire, qui s'occupe des traumatismes crâniens. Et ça fait la 3e année que je fais une action avec eux, c'est-à-dire les sortir de l'établissement où ils sont, de faire une création et de faire un concert sur le site. Les mécènes qui aujourd'hui nous aident pour ce genre de choses peuvent être très fiers parce que c'est des moments exceptionnels et c'est des moments de vie et des moments très chaleureux pour les musiciens et pour le public.
Le spectacle s'intitule « Voyage au pays des fleurs ». En pratiquant la botanique, je m'adonne à la luxure. C'est une adaptation d'un livre de Yves Pacalet qui invite à regarder les fleurs différemment. C'est un spectacle luxuriant, un texte érotique. Et comme on est sur un territoire où le végétal a une place un peu prépondérante, je pense qu'à la fois la dimension artistique du projet, mais sa résonance avec la dimension économique du territoire a fait qu'ils ont eu envie de soutenir ce projet. Pour aboutir ce partenariat, en fait, nous avons de notre côté fait la proposition de venir travailler dans une entreprise membre de la Fondation. C'est donc le groupe Sebron qui a proposé cet espace, espace Copernic, avec l'envie de rencontrer les personnels.
La culture, c'est le cerveau droit. On est très habitué à travailler avec notre cerveau gauche, on est dans le rationnel tout le temps. La culture, c'est les émotions, donc c'est un très bon complément. La culture et l'art apportent des rapports différents, une autre manière de communiquer entre nous. C'est une expérience que j'avais très envie de mettre en place.
L'histoire du Petit Anjou, c'est une très vieille histoire qui remonte à 1893. Et puis le Petit Anjou a disparu du paysage en 1948. Et puis de fil en aiguille, et bien voilà, on a récupéré des épaves, etc., à droite et à gauche. Et ça fait l'objet d'un dossier qu'on a déposé en 2013 à la Fondation Mécène-et-Loire. Hein. Et on a reçu un soutien très très fort puisqu'on a une dotation de 20 000 euros de la Fondation pour réparer le moteur qui est ici. C'est unique au monde, ces moteurs. Là. Ça a disparu, tout ça.
Un petit peu de bruit.
Avec Mécène-et-Loire, nous avons choisi de soutenir ce projet. Il correspond exactement aux critères de notre fondation, c'est-à-dire mise en valeur du patrimoine culturel, du patrimoine historique de notre région. Nous avons été aussi séduits par la passion que les membres de l'association du Petit Anjou ont mis à nous présenter ce projet qui leur tenait à cœur et qui leur permettait d'avancer véritablement dans le cadre du développement de leur association et de leur projet global.
En parallèle des projets annuels que nous soutenons, notre fondation attribue, pour un montant important, une bourse sur le thème art, innovation et économie. En 2010, nous avons eu le grand plaisir de soutenir Jérémy Lenoir, un photographe, pour son projet Entre Loire et Océane. En 2014, nous avons eu le plaisir d'attribuer cette bourse à un collectif de jeunes talents pour leur projet La Bande Passante. Ce projet est une création interactive permettant de rentrer dans une composition musicale en déambulant dans un espace. Toujours pour nous, cette intention de promouvoir la conjonction des techniques et des arts.
Voilà, donc après cette petite introduction vidéo, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Mécène-et-Loire, c'est l'aventure d'un groupe de chefs d'entreprise. L'histoire a commencé finalement en 2005 avec la signature d'une convention entre CCI France et puis la DRAC. Cette convention avait pour objet de promouvoir le mécénat en territoire auprès des entreprises. Après avoir organisé en 2006 une première rencontre mécénat et entreprise, la CCI de Maine-et-Loire, ou en tout cas un groupe de chefs d'entreprise chargés de cette thématique à la CCI de Maine-et-Loire décide de vraiment s'en emparer et d'aller un peu plus loin en créant une fondation d'un nouveau type. D'un nouveau type parce que en 2007, la fondation multi-entreprise, multi-activité n'existe pas. Généralement, une entreprise crée une fondation et entreprend des actions de mécénat par le biais de cette fondation. Là, on se retrouve avec une fondation un petit peu différente qui regroupe 24 entreprises, aussi bien des cabinets d'experts comptables que par exemple une franchise McDonald's, que majoritairement des TPE et des PME quand même, mais des entreprises également avec une puissance un peu plus large. Pourquoi la fondation entreprise ? Déjà parce que c'est un outil d'identification de l'action qui est assez clair. Au niveau de la communication, vous avez vraiment une structure qui permet de fédérer les entreprises et d'avoir vraiment une couverture médiatique assez importante. C'est une structure qui est assez facile à mettre en place. Maintenant, un peu suppléée par le fonds de dotation, qui est un autre outil de financement du mécénat, et qui allie et les qualités de l'association et celles de la fondation. Un coût modulable finalement, puisqu'il faut mettre en place quand même un programme d'action quinquennale. La fondation peut être créée, doit être créée au minimum pour 5 ans avec une somme de 150 000 euros au départ. Et puis le gros avantage de la fondation, c'est vraiment que c'est une action pérenne. Vous avez dès le départ un programme d'action quinquennale, comme je le disais, et vous êtes certain de pouvoir le mettre en place, puisque toutes les sommes engagées par les entreprises sont cautionnées en banque. Voilà. Aussi, également, un outil particulièrement adapté pour des TPE et des PME. Pourquoi ? Parce que, évidemment, chaque entreprise peut mettre en place de son côté son programme de mécénat, mais dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaires hors taxes. Là, en regroupant les forces et en regroupant les bonnes volontés, ça vous permet d'avoir une puissance financière qui est beaucoup plus conséquente et de mettre des moyens sur des actions qui vont apporter une vraie visibilité pour le territoire. Donc une fondation territoriale, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un outil qui permet de soutenir par tous les moyens humains, techniques, matériels, financiers, les actions d'intérêt général, porteuses d'images pour un territoire. Nous, on a décidé vraiment de se consacrer au territoire de Maine-et-Loire, parce que c'était vraiment en regroupant finalement des entreprises qui sont toutes implantées chez nous, des entreprises qui peuvent très bien avoir des antennes hors Maine-et-Loire, mais l'important, c'est qu'elles ont toutes leur siège en Maine-et-Loire et que ce sont principalement finalement des entreprises patrimoniales ou familiales. Et il y avait vraiment cette dimension de vouloir mettre en place quelque chose pour et sur le territoire. Aujourd'hui, puisque la Fondation Maine-et-Loire, elle est à sa deuxième, dans sa deuxième vie finalement, elle a dans un premier temps existé entre 2007 et puis 2012. C'est 800 000 euros qui ont été consacrés au projet avec 24 entreprises et notamment l'obtention d'un Oscar de l'Admical, qui est vraiment la grosse association de promotion du mécénat en France. Il y a eu cette volonté justement d'amplifier cette action, de la renouveler, de donner une seconde vie. Donc cette fois avec 28 entreprises, toujours majoritairement des TPE, toujours majoritairement des PME, quelques ETI. Et puis un budget quinquennal qui est passé à 1 million d'euros. Donc avec deux tickets d'entrée, un premier ticket d'entrée à 5 000 euros par an sur 5 ans et un deuxième à 10 000 euros par an sur 5 ans. Avec évidemment la réduction sur les impôts de 60%. On fédère à l'heure actuelle 5 000 salariés, ce qui est un enjeu majeur, puisque aujourd'hui il faut, entre guillemets, justifier ces actions de mécénat, et un moyen de le faire, c'est vraiment d'impliquer les salariés. Nous, on se rend compte que pour nous, c'est vraiment une difficulté, un obstacle, mais également un challenge très intéressant. Puisqu'on fédère 5 000 salariés d'entreprises différentes avec des modèles de management complètement différents, vous avez des modèles de salariat également totalement différents. Par exemple, des employés chez McDonald's ne vont pas être les mêmes que ceux d'un cabinet d'experts comptables. Donc ça, c'est un véritable enjeu. Un point commun, comme je disais, qui a été conservé, c'est la localisation du siège social en Maine-et-Loire. Et puis, on a un comité des fondateurs qui est composé de 28 membres, qui sont les chefs d'entreprise, puisque au sein de la fondation, ce sont vraiment les chefs d'entreprise qui ont voix au chapitre et qui sont vraiment actifs. On a également trois représentantes des salariés qui participent comme les chefs d'entreprise finalement au programme d'action, mais qui ont la particularité en plus de mettre en place des programmes qui sont plutôt destinés aux salariés, avec, dans l'optique justement de les sensibiliser, de les impliquer. Et puis on a également trois personnalités qualifiées qui peuvent intervenir à nos côtés sur différents sujets et qui participent pleinement à l'aventure. Donc comme je le disais, des entreprises, forcément vous, ça va moins vous parler qu'à un public de Maine-et-Loire, mais par exemple, on a des experts comptables, on va avoir McDonald's, on va avoir Baudet qui est plus dans l'industrie, on va avoir des boulangers, de la restauration. C'est vraiment très, très éclectique. Maine-et-Loire, depuis sa création en 2007, c'est 1 million d'euros qui ont été attribués à plus d'une centaine de projets. Une bourse de 45 000 euros qui a été attribuée en 2010, comme vous l'avez sûrement, enfin vous l'avez vu dans la vidéo, à un artiste, Jérémy Lenoir. J'aurai l'occasion de revenir sur les programmes qu'on met en place, sachant qu'on en met deux, un appel à projet annuel au terme duquel on va soutenir une vingtaine de structures, et puis cette bourse sur laquelle on va intervenir vraiment en création. Sur les appels à projet, on peut intervenir en création, mais principalement en cofinancement. La bourse, on veut vraiment permettre l'éclosion d'un artiste, qu'il soit de chez nous ou qu'il soit d'ailleurs, ça, aucun problème. Mais on veut que son premier projet, le premier projet fondateur de sa carrière, se déroule chez nous. Voilà, donc on y vient. Cet appel à projet annuel, si je prends l'exemple de celui de 2015-2016, On l'a lancé en janvier dernier, on l'a clôturé le 30 juin. On a reçu 99 candidatures éligibles. On en a enlevé quelques-unes qui ne correspondaient pas à nos critères, à savoir l'éligibilité au mécénat de la structure qui porte le projet, association, collectivité territoriale, établissement public, fondation, fonds de dotation. On a également cette dimension d'originalité et d'innovation qui est très importante pour nous, puisqu'on va soutenir un projet plutôt qu'une structure. On n'interviendra pas, par exemple, en frais de fonctionnement. On va plutôt intervenir sur les projets, sur des projets. Et puis, on a également ce critère de calendrier, puisque ce sont les chefs d'entreprise qui sélectionnent eux-mêmes les projets qui leur sont soumis, et on ne peut pas intervenir de manière rétrospective. Sur les 99 dossiers qu'on a reçus, on les a dispatchés à 16 binômes de membres fondateurs qui ont tout l'été pour les étudier. Donc, il y a plusieurs manières de procéder. On n'a pas forcément de regard sur la manière dont eux mènent leurs investigations. Ils peuvent très bien provoquer une rencontre avec les porteurs de projet. Ils peuvent se baser uniquement sur le dossier, ce qui se défend aussi, ou alors provoquer un entretien téléphonique. Mais ce sont vraiment eux qui vont s'attacher justement à découvrir ce qui se cache derrière ce dossier de candidature. Et puis on les réunit ensuite en comité de sélection. En général, c'est une réunion qui doit durer 8-10 heures, quelque chose comme ça, puisque c'est très dur, on décide de manière collective. Les projets, finalement, ce n'est pas une entreprise qui va soutenir un projet. C'est un groupe de 28 entreprises qui va soutenir ce projet. Là, d'ailleurs, il a lieu la semaine prochaine. Les projets sont. Enfin, il y aura une nouvelle sélection de projets, comme tous les ans, une vingtaine de projets, 140 000 euros, une enveloppe globale de 140 000 euros accordée à ces projets, avec des sommes allouées qui vont entre 2 000, 3 000 jusqu'à 20 000, 25 000 euros. Et puis ensuite, dans les domaines évidemment de la culture, du patrimoine, de la solidarité, de l'environnement, de la recherche, également avec du mécénat croisé. Finalement, je dirais qu'on se fixe pas de limites. C'est vraiment au coup de cœur des chefs d'entreprise. Il y a un binôme qui va étudier tel dossier. Il va se dire, celui-là, vraiment, je pense qu'il peut vraiment apporter quelque chose pour la fondation au niveau rayonnement ou au niveau visibilité ou parce que c'est un domaine qui me plaît. J'ai envie qu'on soutienne. Je vais le défendre devant le reste du groupe. Et ensuite, c'est au reste du groupe de choisir. Sachant que sur ce comité de sélection, on va vraiment passer en revue les 99 projets avec 2-3 minutes qui sont consacrées à chaque projet. Et puis avec 2 tours de sélection, c'est vraiment une étape compliquée, mais à laquelle finalement les chefs d'entreprise prennent part avec beaucoup de plaisir parce que se retrouver en dehors du cadre professionnel habituel, je dirais, c'est un peu vécu par certains comme une soupape. Finalement, on va se faire plaisir, on va choisir des projets qui vont nous emballer et qu'on va ensuite essayer de faire partager dans nos entreprises. D'ailleurs, à ce sujet, on a monté un petit groupe de collaborateurs référents au sein des entreprises. On a fait la proposition, en tout cas, au chef d'entreprise de la fondation. Chaque chef d'entreprise avait le choix de nommer un collaborateur ou pas. Et puis, on se retrouve aujourd'hui avec une quinzaine de collaborateurs référents qui nous aident à relayer les contreparties qui sont négociées dans le cadre des soutiens accordés. Je prends l'exemple un peu classique, on va dire, d'une compagnie de théâtre qu'on va soutenir pour la création d'un spectacle et qui va nous proposer, en échange du soutien, des places de la billetterie pour un spectacle. Ces contreparties, elles ne vont pas aller seulement aux chefs d'entreprise. Ils vont pouvoir en profiter, certes, mais il faut aussi que ça bénéficie aux chefs, à leurs salariés, à leurs collaborateurs. La Fondation Mécénat Loire, c'est plus qu'une histoire de chef d'entreprise, c'est vraiment une histoire d'entreprise avec un rayonnement à l'intérieur même des structures qui la composent. Et la deuxième action, c'est une bourse. Donc là, c'est pour la fondation numéro 2, c'est passé à 2 bourses de 20 000 euros. Ces bourses sont vraiment des temps forts de communication et de rayonnement pour la fondation. puisque là on intervient vraiment en création sous notre label. Cette année, je vais peut-être revenir vers la fin. Voilà, c'est un projet qui s'appelle La Bande Passante, qui sera présenté en novembre 2015. Là, on est en train de travailler sur la communication autour de l'exposition et puis du vernissage. C'est un projet très innovant. Finalement, vous promenez dans un couloir qui matérialise un morceau de musique, et en fonction de, vous êtes géolocalisé à l'intérieur de cet espace. Et en fonction de vos mouvements, de votre déambulation, du rythme à laquelle vous allez vous déplacer, de vos mouvements, vous allez percevoir le son de telle ou telle manière. Donc là, on a fait confiance, puisque c'est vraiment le terme. Je pense qu'il y a ces 20 000 euros, on peut, enfin, c'est vraiment un projet, encore une fois, un projet coup de cœur. On va dire, bah, tiens, ce projet nous plaît, on y va, on fonce, alors que c'est un projet qui n'existe à la base que sur papier. Mais c'est un des leitmotiv aussi des entreprises, enfin des chefs d'entreprise qui composent la fondation. C'est en quelque sorte, il n'y a pas forcément de peur de prendre des risques. On est vraiment sur le coup de cœur, sur des paris, sur ce qui nous fait plaisir. Donc là, ils ont parié sur quatre ingénieurs qui, enfin moi j'ai vu les premiers résultats. C'est un travail très intéressant et je pense que ce qui fera parler de lui. Là, on est sur la bourse de création avec un projet qui a vocation à se développer et puis à être installé dans des festivals plutôt versés numériques, plutôt art numérique, voilà. Mais à l'extérieur du département. Mais la création aura eu lieu chez nous. Sur les projets un petit peu plus classiques de l'appel à projet, je vais vous en présenter quelques-uns. On a Jardin de Nuit qui est proposé par l'association Parc Oriental. C'est un parc végétal à Maulévrier, et ils ont refait toute une mise en scène japonisante, je dirais, avec des lumières, avec des contes, avec quelque chose de très intéressant et que les chefs d'entreprise ont d'ailleurs eu l'occasion de visiter, puisqu'ils ont fait récemment une visite de nuit, et il y a vraiment des chefs d'entreprise à la limite qui se disaient bah tiens, j'ai connu ce projet à travers la fondation. Moi, si ça m'intéresse, enfin moi, ça pourrait m'intéresser d'aller plus loin et de finalement mettre en place d'autres actions avec mon entreprise. On a ce cas, on propose une démarche de mécénat clé en main, mais qui peut pousser à aller plus loin. On a une entreprise qui, avant de rentrer dans la fondation, en 2007, ne faisait pas forcément de mécénat. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui a créé une galerie d'art éphémère dans son hall d'accueil. C'est une entreprise qui a créé sa propre fondation. C'est une entreprise qui met énormément d'actions de mécénat en place. Donc c'est vraiment mettre le pied à l'étrier pour donner aussi envie d'aller plus loin. On a ensuite la plateforme, qui est un jardin flottant qui a été installé depuis peu à Angers sur un étang. Et c'est un autre projet phare de la fondation, sachant qu'on était les premiers à parier sur ce projet et que aujourd'hui, avec l'expérience de la fondation, c'est en devenant en quelque sorte un label, je dirais, et qui permet à un projet, à un porteur de projet, d'aller voir d'autres mécènes, d'autres entreprises, en disant voilà, j'ai déjà le soutien de la Fondation Mécène-et-Loire, et c'est un signe quelque part de crédibilité. On a même des associations qui nous demandent s'ils peuvent mettre leur logo sur leur programme ou sur leurs affiches pour aller ensuite démarcher d'autres mécènes, même si nous on n'a pas donné notre accord. Et puis un lieu de culture, puisque c'était aussi l'objet de cette présentation. La maison Julien Gracq, qui est l'ancienne maison d'un écrivain à Saint-Florent-le-Vieil, et pour lequel on a financé la restauration de la bibliothèque avec l'achat d'ouvrages et puis également l'achat de matériel numérique pour faciliter la visite aux plus jeunes.
Est-ce qu'il y a des questions, des remarques suite à cet exposé ou des demandes de précision ? Sinon, on va continuer par la présentation. Mais entre-temps, je fais une petite digression avec Céline Faucheron, qui nous vient de Saint-Benoît. C'est une petite incursion dans des territoires qu'on ne connaît pas très bien non plus. Donc, vous nous dites deux mots sur ce que vous faites.
Bonjour à tous. Donc, Céline Faucheron, donc, je suis de formation artistique, entre guillemets. J'ai fait les arts appliqués et puis ensuite, je me suis spécialisée dans la communication visuelle. Donc, après un parcours en entreprise et en association régionale à vocation de développement de la musique chorale, j'ai saisi une opportunité de partager ma passion pour les loisirs créatifs et notamment pour le scrapbooking. C'est une pratique qui consiste à mettre en avant les photos, les souvenirs et l'histoire de chaque famille ou de chaque personne. Donc on m'a demandé d'intervenir aujourd'hui pour vous présenter un petit peu ce travail-là, parce que je crois qu'effectivement, journée d'automne, vous devez avoir une thématique sur la créativité dans les territoires culturels. Et donc, effectivement, la créativité, c'est un développement de soi qui me paraît très important, que ce soit par le scrapbooking ou par d'autres pratiques artistiques. On peut en trouver effectivement beaucoup, que ce soit par l'oralité ou par les travaux manuels. Donc, moi, j'ai choisi de le faire par les travaux manuels. Et donc, on se rend compte, au fur et à mesure de la pratique, qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à s'exprimer oralement, qui arrivent à le faire manuellement, forcément. Et c'est surtout accessible à tous. Donc c'est une façon très intéressante de s'exprimer et à travers plusieurs domaines. Donc là, moi, je travaille essentiellement avec les gens, leurs souvenirs familiaux, mais on peut aussi toucher des souvenirs de voyage. Il y a aussi des gens qui scrapent leur passion, donc la musique. On a beaucoup de gens qui travaillent autour de la musique. Et beaucoup de gens qui travaillent aussi autour de la couture, de toutes leurs activités autres. Voilà. Donc, je ne sais pas si... Est-ce que vous voulez que je parle d'autre chose ou...
Où êtes-vous installée ?
Ah oui, pardon. Je me suis installée récemment à Saint-Benoît. Donc, je découvre aussi le territoire ici. Ça fait un an. Avant, je travaillais donc en Normandie. Et j'arrive dans la région. Et donc, je découvre aussi toutes les possibilités qu'il y a. Ce qui existe déjà et ce qu'il y a à faire aussi. J'interviens à titre personnel auprès du grand public, mais j'interviens aussi à titre professionnel. J'interviens de plus en plus dans les centres sociaux, les maisons de quartier, les mairies, et puis évidemment dans les écoles. Parce qu'avec la mise en place des nouveaux ateliers dans les écoles, on me demande de plus en plus d'intervenir auprès des enfants, pour qu'ils fassent autre chose que du coloriage et du collage de papier à l'école. Voilà, pour qu'ils fassent des objets finis, des choses. C'est des projets... Alors, je me bats tous les jours contre l'image des loisirs créatifs qui consiste, pour beaucoup, à passer une petite heure de détente. C'est ça, certes, c'est de la détente. C'est un loisir créatif, mais ça va beaucoup plus loin. Alors, bon, l'objet aujourd'hui, ce n'est pas de débattre là-dessus, mais ça peut aller beaucoup plus loin que la simple pratique artistique. J'insiste vraiment sur le mot expression. C'est une expression de soi, une valorisation de soi qui est très importante. Et donc, chez les enfants, ça touche aussi un domaine particulier. Voilà. Chez les enfants, mais aussi chez les publics. J'interviens aussi... dans les centres qui accueillent des personnes à mobilité réduite ou qui ont d'autres handicaps, il y en a beaucoup, comme l'autisme pour les enfants, et puis dans les maisons de retraite, beaucoup aussi, parce qu'on oublie souvent le public des maisons de retraite. Alors, je ne sais pas, dans cette région, je pense que c'est développé aussi, mais en Normandie, on intervenait beaucoup, justement, dans la culture à l'hôpital et culture en maison de retraite, parce que c'est un public qui est souvent oublié. Donc voilà. Voilà un petit peu où j'interviens.
Un petit clin d'œil en passant, voilà, avec quelqu'un qui vient d'arriver dans la région, Saint-Benoît, et qui pratique des choses. Donc on continue sur les lieux culturels avec une galerie d'art qui est installée à Civray, un véritable pari. Donc Thierry, tu nous en parles et tu nous expliques un peu les difficultés, comment tu vois les choses.
Tu commences mal, hein. Tu parles des problèmes, moi je vais essayer de parler d'autre chose, de plus positif. Voilà, donc Thierry Sauvage, j'ai été licencié économique en 2014, au début de l'année 2014. Bon, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je recherche un emploi? Ça, j'ai pensé que ça allait être difficile, mais alors pourquoi ne pas faire quelque chose qui m'intéressait? Et donc, je m'intéressais à l'art depuis longtemps, surtout la peinture. Donc j'ai dit, je vais créer une galerie d'art. Alors, une galerie, ça veut dire vendre des arts, ça veut dire de l'art, pardon, ça veut dire être commerçant. Bon, j'avais pas de formation spécifique dans ce domaine. J'avais pas de formation non plus du point de vue artistique, autodidacte. J'ai visité pas mal de musées dans ma vie. J'ai pas mal circulé, mais point quoi. Donc je me suis donné un an pour préparer mon dossier et l'ouverture de ma structure. Donc j'ai hésité entre le métier de marchand d'art, c'est-à-dire sans galerie, ou alors ouvrir une galerie. Bon, en discutant avec les galeristes et certains artistes, ils m'ont conseillé vivement d'avoir un lieu quand même, pour que physiquement on puisse repérer Thierry Sauvage, marchand de tableaux, quoi. Donc j'ai décidé d'ouvrir une galerie, ou ouvrir cette galerie, Poitiers, Angoulême, Cognac. Je souhaitais rester en Poitou-Charentes. Donc j'ai fait un petit peu le tour. Et puis finalement, je me suis aperçu qu'il est tout à fait possible d'ouvrir une galerie en milieu rural, puisque j'en connais qui vivent très très bien. Elles ne sont pas nombreuses, il faut le dire, mais j'en connais qui vivent très très bien dans des petits villages vraiment perdus. Donc finalement, par rapport à des questions de loyer, par rapport à une question de proximité avec mon domicile, j'ai choisi Civray. Donc c'est tout près de chez moi, je vais à pied à la galerie et je suis très bien à ce niveau-là. Alors, pendant un an, j'ai donc fait un business plan, j'ai revisité des musées sur les thèmes qui m'intéressaient particulièrement, c'est-à-dire à ce moment-là, c'était surtout l'art singulier et l'art brut. Vous voulez me dire, c'est un peu à la mode en ce moment, tout le monde en parle. Beaucoup de galeries se mettent à faire de l'art singulier, ne sachant pas plus comment faire pour vivre. D'ailleurs, vous avez une très belle exposition d'art singulier à Poitiers en ce moment, dans la Grand Rue. Chez Antoine Hiverne, vous voyez, je suis pas sectaire, je fais de la publicité aussi pour les collègues et concurrents. Robillard, voilà. Je vous invite à aller le voir parce que c'est assez curieux. Et puis si vous y preniez goût, peut-être que vous descendrez jusqu'à Civray un jour pour en voir, parce que j'en expose aussi, moi, de l'art singulier. Voilà. Donc pendant un an, j'ai vu rencontrer des artistes. J'ai commencé par en connaître un, qui m'en a fait connaître un autre. Ce sont des réseaux, les artistes. Il y a un sentiment, il y a des affinités très fortes qui se créent entre les artistes et avec leurs galeristes aussi. Donc quand vous êtes galeriste, les artistes deviennent vos amis, dans la plupart des cas. Bon, il y en a certains qui ont quitté leur galeriste, on sait bien, où il y a eu des coups tordus, mais en général, c'est un milieu où l'affectif est très important. C'est vrai que depuis que j'ai ouvert et depuis que je rencontre vraiment régulièrement des artistes, j'ai connu de nouveaux amis et nous sommes vraiment très proches. Donc ça, c'est du point de vue humain, c'est très intéressant pour moi, j'apprécie énormément. Et j'essaye de, par ailleurs, justement, de leur donner le maximum de mes possibilités pour leur permettre de vendre, de connaître et de vendre leurs œuvres. Parce que c'est quand même la finalité du galeriste, hein, c'est de vendre des œuvres, c'est d'aider les artistes à vivre, et puis c'est évidemment soi-même de pouvoir en vivre. Ça, c'est pas toujours évident, surtout au début, hein. Donc, j'ai choisi Civray, après quelques travaux de rénovation d'un bâtiment qui était un local d'antiquaire, au centre de Civray, rue Louis XIII. C'est la rue historique de Civray. J'ai donc ouvert. Localement, ça a été un petit événement quand même, parce qu'une galerie en milieu rural, c'est tellement rare qu'il y avait une certaine fierté de la part des élus et de la part des gens, des commerçants aussi, et de certaines personnes de Civray, de savoir qu'une, entre guillemets, vraie galerie d'art allait s'ouvrir. Donc il y a eu un peu de buzz local. Bon, c'est pas Montusque qu'à Poitiers le buzz, hein, je sais bien, mais enfin, à Civray, on en a pas mal parlé, ou pas beaucoup en tout cas. Alors, cette galerie, moi je trouve que c'est intéressant, en dehors du fait que ça me permettra peut-être un jour de vivre. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, hein, c'est évident. Au début, on dépense de l'argent. La question étant de savoir jusqu'où on peut aller avant de fermer. Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour faire tourner la galerie? Ça, c'est un débat familial. Vous comprenez, je pense qu'il faut être prêt à aller assez loin si on veut tenir, Et il faut en même temps se bouger. Hein. C'est-à-dire, c'est pour cela qu'en dehors de la galerie, je fais aussi des salons. Et je vais à Bordeaux, par exemple, à la fin du mois. D'ailleurs, j'ai des cartons d'invitation. S'il y a des gens qui ont envie de descendre à Bordeaux, voir une foire d'art contemporain le dernier week-end du mois, je leur donnerai des cartons d'invitation. C'est pour deux personnes. Donc, une galerie, pour moi, c'est un lieu d'animation, et je me rapproche de la question lieu culturel et créativité en milieu rural, qui était l'objet de cette rencontre. Pour moi, c'est un lieu d'animation qui est quand même important, parce que c'est une des rares occasions où le public, notamment rural, a l'occasion de voir des œuvres d'art, des vraies, qui ne sont pas en photo, qui ne sont pas des images virtuelles. Donc, j'ai pas mal de gens qui viennent se promener, finalement. C'est un lieu de visite, c'est pas un musée, mais c'est un lieu moins sacré, un petit peu moins impressionnant qu'un grand musée. Ils osent venir dans ma galerie, ils viennent voir les œuvres. Et nous échangeons assez facilement sur ce que je présente. Donc, si vous voulez, je trouve qu'en dehors de l'aspect commercial, je trouve que c'est une ambition assez noble de vouloir présenter des œuvres au public et de faire un travail pédagogique avec des gens des catégories sociales différentes. J'accueille des scolaires. Alors là, c'est un véritable plaisir, parce qu'on fait des petits ateliers de 20 minutes avec les scolaires. Bon, ça, je fais ça complètement bénévolement. Hein. Je vais accueillir bientôt des gens qui sont dans des groupes d'insertion, dans les chantiers d'insertion. Bon, je trouve que c'est intéressant, parce que c'est une des rares occasions qu'ils ont de voir des œuvres d'art. J'accueille d'autres publics aussi, le lycée. Apparemment, on m'a dit que le nouveau prof d'art plastique du lycée de Civray, le lycée d'enseignement général, va me contacter. On va faire des choses ensemble pour les lycéens. Bon, ça me paraît intéressant. J'ai le cinéma de Civray qui est juste en face, et on va pouvoir faire un partenariat autour de certains films à thème et par rapport aux expositions que je présente. Donc, on peut faire des choses. La bibliothèque autour des livres. Autour des livres et art, en dehors des livres d'art, même livres sur les artistes, je peux faire des choses ensemble. On l'a déjà évoqué, mais ça, c'est en construction, parce que je ne suis ouvert que depuis 6 mois. Donc, c'est un lieu, et je pense que j'en oublie encore des choses que j'ai prévues, d'autres rencontres, mais bref, on pourra en discuter plus tard. Donc, c'est un lieu d'animation culturelle, parce que les artistes viennent à la galerie au moment du vernissage, et puis je fais aussi des événements, c'est-à-dire que je fais ce que j'ai appelé les beaux dimanches. L'artiste vient et nous discutons, nous échangeons, et ils échangent avec les gens qui sont intéressés par les œuvres. Ça fait des animations le dimanche après-midi dans Civray. Je vous assure que c'est pas trop, parce que je suis le seul à être ouvert, quoi. Voilà. Alors, les vernissages, c'est toujours des moments importants pour l'artiste. Donc, je fais du battage pour qu'il y ait du monde au vernissage. C'est très important, à mon avis, pour l'ego de l'artiste, qu'il y ait du monde quand il fait son vernissage. Si vous avez trois personnes à un vernissage, pour lui, c'est dur. Hein. Quand il vient de loin, son ego en prend un coup, et moi, mon portefeuille aussi. Mais ça, c'est pas le plus important pour moi. C'est surtout ça. Lui, ça perçoit, pour lui, qu'il y ait du monde, c'est très important. Donc je présente des affiches. Je diffuse dans tout le sud des affiches que j'essaye qu'elles soient les plus belles possibles pour valoriser l'artiste. Là, je vous présente une affiche d'art singulier, par exemple. Voilà, je fais des affiches comme ça. Grand format. Donc, les commerçants ne me les refusent pas, parce qu'ils les trouvent esthétiques. Donc, ça, c'est très important pour valoriser le travail des artistes. De communiquer avec des supports. Bon, je ne vous parle pas d'Internet ni de Facebook. Évidemment, ça, c'est maintenant complètement obligatoire. Je fais aussi des grandes bâches que je mets devant la galerie, ce qui fait que les gens voient, et puis l'artiste, quand il vient, il est content, quoi. Il est content, on parle de lui et on le montre. Voilà. Alors, la création de cette galerie, ça a été une initiative tout à fait personnelle. Je n'ai pas rencontré la mairie avant, je n'ai pas rencontré la DRAC, je n'ai pas rencontré grand monde, en fait. Hein, je suis parti tout seul. Je parle en tout cas des institutions. Mais en discutant, la mairie, je me suis rendu compte que la mairie de Civray
à la volonté, c'est un nouveau conseil, à la volonté de redynamiser la ville à partir de la culture. Extraordinaire quand même. L'art, la culture comme support au développement et de la ville. Sur Civray, on a une salle de spectacle qui s'appelle La Margelle, une programmation d'une quinzaine de spectacles par an, c'est pas mal. Le cinéma qui fonctionne depuis une dizaine d'années, mais qui a été rénové il n'y a pas longtemps, qui est passé aussi au numérique, mais ça c'est partout pareil. Il y a un petit musée qui va être transformé et qui va accueillir des artistes. Donc là, je suis en débat avec eux parce qu'au départ, ils étaient plutôt intéressés par les artistes locaux, régionaux. Bon, moi, je me bats pour que ce ne soit pas ça, mais bon, ça, c'est pas gagné. Il y a des manifestations, il y a un festival qui est assez important, qui est le festival Au fil du son, qui fait 17 000 spectateurs au mois de juillet, tous les ans, depuis une dizaine d'années. C'est un festival qui ne fait pas de bruit dans les médias, finalement, mais qui est quand même un des plus importants de la région et qui est au centre-ville. Donc, la mairie soutient mon projet et souhaite... Finalement, je m'occupe bénévolement, là encore, de mettre en place des animations artistiques et des expositions à thème en utilisant le musée local, peut-être ma galerie, et puis les équipements municipaux. Donc on est en train de réfléchir, justement, pour 2015. L'association des commerçants est impliquée aussi, pour 2016, à faire une exposition sur l'art brut. Original, non ? Voilà. Donc c'est en préparation, j'ai un plan pour qu'on organise une exposition. Alors, donc pour résumer, je dirais que la culture, développer les activités culturelles dans une ville, je pense que c'est propice à la créativité des habitants de la ville et ça incite, je pense, certains à venir s'installer. Bon, l'activité commerciale, l'activité économique est très importante en priorité, c'est sûr, mais si des artistes peuvent venir s'installer, alors aujourd'hui, d'ailleurs, ce sont les Anglais qui viennent s'installer. On a des artistes anglais dans notre région, ce serait aussi bien qu'il y ait aussi des jeunes artistes qui viennent dans le pays civraisien. Les lieux que je vous ai nommés, je pense que ça concourt à créer une dynamique qu'il faut poursuivre. Avec des moyens qui sont très limités de la part des collectivités. C'est ce qu'ils nous disent régulièrement. Voilà, pour l'instant, ce que j'avais à dire.
Merci Thierry. Peut-être, est-ce qu'il y a des demandes de précision ? Après, on reviendra sur le débat général avec l'ensemble des intervenants, et vous-même, bien sûr, puisque est-ce qu'il y a des demandes de précision sur ce parti ? Oui, vous présentez en même temps, comme ça.
Bonjour, je m'appelle Anne Jordan. Je voulais savoir, est-ce que vous avez vendu des œuvres ? Oui. D'accord.
J'en ai vendu une cinquantaine.
C'est très bien.
La première exposition, Chauvet, là, j'en ai vendu 25. J'ai vendu 25 œuvres. Mais ce n'est pas des œuvres très chères. C'est un artiste.
Ma deuxième question. Voilà. C'était quoi
C'est un artiste excellent. Il a 70 ans, mais l'argent ne l'intéresse pas, lui, par contre. Et finalement, plus ça va, plus il baisse les prix. Lui, bientôt, il va donner ses œuvres. À Nantes, il y avait une structure comme ça où les œuvres ne devaient pas dépasser 100 euros. C'était un lieu associatif. Le type disait pas d'œuvres à plus de 100 euros. Et finalement, au bout d'un certain temps, avec l'ambiance qu'il a su créer, le climat qu'il a su créer, il avait des artistes assez importants qui vendaient par ailleurs à 3-4 000 euros ailleurs, mais chez lui, c'était 100 euros maximum. Lui, il est dans cette démarche-là. J'ai vendu des œuvres qui allaient de 50 à 650 euros. J'en ai vendu 24. Après, celui-ci, j'en ai vendu une quinzaine. Voilà, je vends. En ce moment, j'ai des œuvres qui sont plus chères. C'est Michel Rotti, qui est un artiste qui a une certaine notoriété dans le milieu artistique pur, peinture, qui est dans Art Tension, qui a eu un article important dans Art Tension il y a quelques années. Là, je suis autour de 3500 euros. Ma galerie, c'est pas un désert, mais ça commence à se clarifier sérieux, là. Voilà.
Quel est votre type de clientèle ? Est-ce que c'est des locaux, justement ? Est-ce que c'est des locaux notables, entre guillemets ? Ouais. Est-ce que ce sont des gens qui entendent parler de votre galerie et qui viennent, est-ce que vous avez des Pictaviens ? Quelle clientèle vous générez, en fait ?
Globalement, c'est des gens qui sont dans le civraisien aujourd'hui. Poitiers n'est pas descendu jusqu'à Civray. C'est tellement difficile de faire descendre les gens de Poitiers. Il faut que ce soit vraiment très attirant. Pour l'instant, je n'ai pas la notoriété suffisante pour l'instant pour que les gens descendent. Donc, c'est les gens soit en résidence secondaire, voilà, soit des Anglais, soit vraiment des gens de Civray, avec les classes, classe moyenne et puis classe, quelques gens vraiment qui ont de l'argent. C'est clair. Hein, voilà. Et puis au début, quand même, les amis et les amis des amis. Il y a eu un gros courant de sympathie parce que, bon, on m'a dit, t'es un peu fou, toi, donc on va t'aider un petit peu quand même. Voilà. Ce qui compte, c'est la deuxième année. Hein. Première année, ça va. La deuxième année, c'est autre chose.
Je m'appelle Brenda Drew. Je voudrais savoir quelle sorte de peinture vous exposez à part l'art bleu,
très bien,
s'il vous plaît.
Alors, j'expose donc de l'art singulier. Voilà, je suis attiré par l'expressionnisme, si ça vous dit quelque chose. Voilà, bon, l'expressionnisme... Mais essentiellement, j'essaye de me focaliser autour de l'art singulier, vous voyez, ce type d'œuvre. J'en ai un autre qui est, lui, un abstrait, mais je l'avais exposé parce que c'est un ami, il doit être dessous. Ouais. Donc c'est plutôt l'art singulier, l'art brut. Voilà.
Il y a un magazine en anglais, d'ailleurs, sur l'art brut, je ne sais plus le titre exact.
Ah oui,
il s'appelle c'est Raw.
Je ne sais plus lequel, ouais. Je lis pas, je suis pas abonné. Ouais, ça c'est un ami. Non, c'est pas lui. C'est lui là. Voilà. Ça c'est l'art singulier. Moi, je marche beaucoup à l'affectif, donc j'avais exposé cet artiste parce que c'était un ami. Je lui avais promis que si j'ouvrais une galerie, il fait de l'abstrait. Je l'avais exposé en premier, mais sinon c'est plutôt ça. Voilà. Mais bon, on m'a dit tu fais une erreur. Déjà, on m'a dit, tu fais une erreur, tu ne devrais pas t'enfermer dans un style, tu devrais t'ouvrir et prendre les bons artistes dans tous les domaines. Bon, je pense que ce n'est peut-être pas faux. Parce que ma dernière expo, la Michel Roti, qui n'est pas un singulier, j'ai un courant, je vois des gens qui sont des amateurs d'art qui sont impressionnés, alors que sur l'art singulier, c'est encore un secteur avec des amateurs vraiment particuliers.
Voilà. Une autre question.
Donc ça bougera peut-être.
Bonjour, Christine Vivion Van Pret. Donc, d'abord, félicitations parce que bon, moi, je suis moi-même artiste et art-thérapeute. Et je vous encourage vivement à continuer dans l'art singulier et l'art brut parce que je suis présidente d'un collectif d'artistes également. Et bien souvent, on retombe dans le figuratif, etc. Donc... et ce qui m'impressionne, c'est que finalement, vous arrivez à travailler avec le tissu local. Et ça...
Vous savez, il se passe tellement peu de choses là-bas dans notre...
Je connais un peu, oui, le Sud-Vienne.
Vous avez le commissaire agricole et puis la galerie d'art.
Et par contre, justement, comme vous parlez, là, on dirait que vous utilisez plus le réseau local, alors qu'au début de votre intervention, j'imaginais que pour vivre avec une galerie d'art brut ou art singulier, il fallait utiliser un réseau national.
Disons, pour l'instant, je n'en vis pas. Pour l'instant, je perds de l'argent, mais ça, je le savais. Hein. Dans mon business plan, j'ai prévu pas d'équilibre avant la troisième année. Voilà, vous voyez. Donc pour l'instant, je suis en local, mais parce que les gens plus loin ne s'intéressent pas à moi. Même si je communique dans Art Tension, par exemple, qui est un magazine national, j'ai une pub tous les deux mois. Chaque fois que j'ai un artiste, je passe une pub. Je fais aussi dans Affiche Hebdo à Poitiers. Je ne l'ai pas fait ce mois-ci, j'ai fait simplement un petit flair. Je fais Sortir en Charente. Sortir en Charente, donc c'est Angoulême. Et puis je fais aussi Niort en poche sur Niort. Plus les journaux locaux, quand on peut. J'ai les articles à Nouvelle République, Centre Presse, L'Avenir, dans le sud de Vienne, Nord-Charente, etc. Plus des flyers, Facebook. Mon Facebook qui tourne, que j'essaye de faire tourner, qui commence à tourner pas mal. Mon site internet, qui est un petit site qui est assez basique, qui a été fait en famille. Voilà, j'essaye de faire parler de moi, mais bon, il faut du temps. Hein. C'est basé sur le temps, une galerie. Il faut des artistes de qualité et une notoriété en tant que galeriste. C'est pas évident. C'est pas évident. Il faut du temps.
Encore deux, trois questions, je crois, mais juste pour réfléchir, pas pour répondre directement, mais pour rebondir sur l'intervention précédente. Et le club d'entreprise du Sud.
C'était la question que je voulais poser, Jacqui me l'a enlevé de la bouche. Donc François Maton, donc moi j'ai plutôt un parcours commercial, marketing, ouais. Ce qui ne m'empêche pas de m'intéresser à la créativité et à l'art. Bravo, vous parlez quand même de Civray, comment dire, avec un peu d'humour, mais pour ceux qui ne connaissent pas cette ville, enfin, peut-être le monsieur d'Angers notamment, c'est quand même une ville charmante, hein, qui est très belle. Qui a cet atout-là. Moi, je me demande comment vous pouvez aussi monétiser tout le travail que vous faites bénévolement, parce que ça me paraît quand même important. Comment dire, certains acteurs sont payés pour faire comment dire, ce que vous faites avec les collèges, les lycées ou l'animation de la ville. Et puis, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de soutien des entreprises locales? Parce que moi, ça me paraît quand même extrêmement difficile de tenir, compte tenu de cette, pardonnez-moi l'expression, zone de chalandise. Et ce que disait madame tout à l'heure, c'est peut-être tout à fait intéressant de se spécialiser sur l'art singulier, mais ça peut être, comment dire, probant sur une grande ville. Vous auriez une clientèle importante, et dans cette clientèle, une proportion très intéressée par l'art singulier, suffisamment importante pour... venir vous acheter suffisamment d'œuvres pour vous tenir le coup, c'est peut-être moins certain à Civray. Voilà.
Je peux répondre.
Oui, tu peux. En ce qui concerne le mécénat des entreprises pour des actions comme ça bénévoles, moi, je suis d'accord. Hein. Je suis à la disposition des entreprises. Hein.
Peut-être que les œuvres peuvent se retrouver aussi au sein des entreprises, c'est-à-dire que vous les avez dans votre galerie, et puis elles sont... ils ont inventé des produits. Hein,
il y a une façon, très simple. Il y a une façon très simple qui s'y retrouve, c'est de les acheter. Parce que vous avez, hein, 60% d'exonération de déduction fiscale sur les œuvres que les entreprises achètent, à condition que le PDG ou le chef d'entreprise ne garde pas ça dans son bureau, mais qu'il le mette dans un lieu collectif... accessible aux salariés, aux employés ou alors aux visiteurs. Mais oui, mais ça viendra après.
Merci. Dorsan Association. D'abord, je vous félicite parce que c'est pas évident de se lancer comme ça. Alors, j'ai le bonheur de vivre juste en dessous, on a un terrain très en pente, d'un artiste qui a une femme qui est artiste également. Et il fait partie, lui, des circuits, alors je n'ai pas le terme exact, le circuit autour de Poitiers, le circuit des artistes. Et tous les ans, ils organisent ça. Le chemin des ateliers. Merci, Jacques. Heureusement que tu es là. Et alors, ça me permet de contacter beaucoup d'artistes. Et vous disiez que c'est des grandes familles. Effectivement, lui, il est artiste. Aujourd'hui, il travaille le fer. Demain, il travaillera le bois. Après, il fera de la sculpture. Il se lance dans différentes activités. Et sa femme travaille la photo.
Comme Picasso, quoi.
Donc, pardon ?
Je dis comme Picasso, quoi. Qui faisait plein de choses, Picasso. Il était dans plein de domaines.
Ils font plein de choses, il change. Il change, sa femme ne change pas, mais lui il change, c'est un choix qu'il fait, et un choix selon les demandes, parce qu'il prévoit un petit peu les demandes, et il fait en plus des expositions, là c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à la région et à droite et à gauche, pour essayer, et il est en pleine zone rurale, il est quand même à 30 km de Poitiers, et il arrive à s'en sortir, il m'a donné des chiffres, c'est faramineux d'ailleurs. Mais il ne fait peut-être pas la même chose d'activité. Quoi. C'est pas... Mais quand il fait ses journées d'artistes, il invite un tas de personnes et c'est passionnant. Et il y a 200, une centaine de personnes qui vont dans sa ferme pour voir toutes les choses. D'accord. Avec des retombées après, d'après ce qu'on me dit. Voilà.
Très bien.
Merci du témoignage. témoignage. Puis j'ai noté que tu étais très œcuménique puisque tu as dit région à droite et à gauche. Donc voilà, l'œcuménisme en passant.
Bonjour, Martine Barigaud à l'association Plateau. Mais ce n'est pas par rapport à l'association Plateau, par rapport à ça que je vais parler, mais par rapport à une expérience personnelle, puisque il y a quelques années, suite à un licenciement, j'ai monté une galerie d'art autour du végétal à Paris, alors que je sortais de 17 ans d'informatique, donc sans formation. Et donc bravo. j'ai entendu beaucoup de choses qui ont résonné par rapport à ce que j'ai vécu. Notamment la question de se poser, de savoir si on suit telle ou telle ligne de conduite, artiste, style, etc. Moi, je travaillais plus particulièrement autour du végétal dans sa représentation ou utilisé pour faire l'œuvre. Et j'ai évité toute la peinture parce que pour moi, comme il y avait du végétal aussi dans l'espace, la peinture réagit mal à l'hygrométrie. Donc c'est un peu ce qui a régi mon choix. Mais je me suis rendu compte, enfin j'ai travaillé beaucoup moi, je mélangeais artistes et artisans d'art qui pratiquaient pour eux personnellement, qui étaient dans une démarche artistique autre que leur business d'artisan d'art. Et j'ai remarqué que quand on se focalise sur la qualité, qu'on a l'œil pour repérer les artistes, qu'on va de la jeune pousse, de celui qui n'a jamais exposé et qu'on aide à s'exposer en même temps qu'à exposer, et qu'on a quelques figures qui tirent le reste, je commençais à avoir une notoriété où j'avais des demandes des États-Unis par mail. Moi, la banque ne m'a pas laissé mes 3 années pour développer. Mon espace avait été choisi pour représenter la tendance européenne dans le magazine officiel du textile et du design japonais par rapport à la structure. Parce que je faisais beaucoup de mise en scène, je racontais des histoires dans cet espace. Et donc, au bout de 9 mois, la banque a carrément tout coupé. Je pense qu'il y a possibilité de le faire à Civray. Moi, je pense que oui. Après, c'est vraiment une façon de garder sa ligne, de se faire connaître par rapport à une spécificité. Et ça va très vite après. C'est du réseau, c'est du marketing viral. Les artistes sont des fantastiques véhicules quand on a cette relation de confiance avec eux et vraiment cette amitié qui se crée. Et en plus, quand ça s'inscrit dans une dynamique globale avec le reste du territoire en proximité. Et on en a discuté l'autre jour, j'avais moi l'idée de faire aussi quelque chose d'un peu approchant à travers les presbytères dans les villages, pour que les presbytères, qui étaient des lieux de passage, de transmission, deviennent ce genre de...
Venez à Civray.
Donc voilà. Donc bon, je... D'accord. Merci.
À nous dire d'ailleurs 2 mots sur le plateau, mais après. Donc, on va peut-être passer au témoignage suivant. Ça n'empêchera pas qu'il y ait d'autres questions ensuite. Et donc, Madame Audouin, c'est à vous. Le cinéma, après la galerie.
Voilà. Bonsoir. Moi, je suis Marie-Hélène Audouin, je viens de Confolens. Bon, c'est un tout petit point sur la carte, hein, comme si vrai. En Charente, cette fois, à 80 km d'ici. Où on a un cinéma associatif. Bon, Confolens, c'est à peine 3000 habitants. Donc, maintenir un cinéma en milieu rural, c'est bien compliqué. Et évidemment, c'est une volonté de la commune, des communautés de communes, qui nous ont permis de restaurer le cinéma, de passer au numérique, avec tous les coûts qui s'en suivent et qui étaient pris en charge par toutes les collectivités. Je suis présidente de cette association et évidemment en campagne, il faut beaucoup parler en termes de bénévolat. Vous parliez de ça tout à l'heure, mais on ne compte pas notre temps, on fait tout bénévolement, sinon rien n'est possible, quoi. On a 2 salariés à temps partiel et puis une bonne vingtaine de bénévoles actifs au sein de l'association. Il faut faire les caisses, il faut faire plein de choses, quoi, au sein du cinéma. On essaye de maintenir la culture dans ce petit village, quoi, qui est à... On est à 1 heure de chaque grande ville, nous. Angoulême, Limoges, Poitiers. On est à 20 minutes d'une première ville qui doit faire 13 000 habitants, qui est Saint-Junien, qui est un peu plus dynamique, qui a une salle de spectacle, la Mégisserie, pareil, qui est soutenue par les collectivités. Alors on est un cinéma à réessai. On essaye justement d'avoir une programmation de qualité. On ne passe pas que du grand public, bien sûr. La salle se remplit pour les cinémas, pour les films grand public. Mais nous, on maintient notre vocation art et essai, où on ne va passer, par exemple, dans 15 jours, une semaine entièrement dédiée à l'art et essai. Bon, ben là, on peut faire 10 entrées, 5 entrées. Bien, mais on insiste pour maintenir la qualité, la connaissance, la culture, et on essaye d'agir au sein de notre petit monde, en faisant intervenir les agents locaux, avec des ciné-débats. Je ne pense pas à tout, là, tout de suite. Des producteurs qui vont venir présenter leurs films. On essaye d'être en lien avec l'actualité, ce qui se passe un peu partout. Et d'être présent culturellement en pleine campagne. Voilà, on va dire ça comme ça.
Est-ce que vous précisez dans quel réseau vous êtes, les réseaux qui vous soutiennent, enfin, qui vous accompagnent ?
Oui, c'est vrai. On fait partie de CP16, Ciné Passion 16, qui est une association aussi où une dizaine de salles adhèrent. Donc des petites salles comme nous, Marton, Chasse-Neuil, que des cinémas associatifs pratiquement, qui ont pour vocation de passer de l'art et essai. Entre autres, on est soutenu par eux et ce réseau nous sert aussi à avoir des projets, enfin des soirées à thème. Par exemple, Barbezieux a rencontré un réalisateur, ils vont nous l'envoyer avec son film. Ça nous sert à faire des soirées à thème. Voilà, et on essaye de faire participer la population. On fait des soirées avec deux films, avec Entracte dînatoire, où on offre le dîner, où chacun peut parler, échanger. On essaye de maintenir tout ça bon enfant et vivant, quoi, parce que c'est quand même assez compliqué. On arrive à faire 16 000 entrées dans l'année environ, ce qui est pas mal, parce qu'on tourne une vingtaine de kilomètres autour de chez nous, quoi. Beaucoup de Parisiens qui viennent pendant les vacances, beaucoup d'Anglais, donc la VO, les films en version originale de toutes langues. Les Parisiens sont contents de voir la programmation qu'on a. Ils n'ont pas eu le temps d'aller au cinéma à Paris, ils voient les films récents chez nous. On a quelques compliments, ça fait plaisir. Mais ça reste assez compliqué. Le mécénat, c'est une chose qui m'intéresse. Ça n'existe pas encore en Charente, j'en ai pas entendu parler, mais on cherche des mécènes, nous. Pour nos deux salariés, ça, c'est les principales charges du cinéma, c'est là, les deux salariés. Maintenir de l'emploi, c'est des jeunes qui ont 32, 33 ans. Il y en a une qui est enceinte, donc on va en chercher un autre. On a reçu 3 CV, je suis étonnée. On s'était dit, un 24 heures en plein enconfolant, on va avoir personne. Si, on a reçu 3 CV de projectionnistes. Il y a des gens qui sont prêts à venir travailler à la campagne. Pour une durée limitée. Que vous dire d'autre ? Vous devez connaître. Pardon, le nombre d'entrées, je l'ai dit, 16 000 environ.
Séances tous les jours.
Oui, séances tous les jours. 5 semaines de congés pour les. Enfin, on a dû fermer 3 semaines en tout pour les congés des salariés. Mais séances tous les jours, oui. Programme à 3 semaines, affichage. Programmes qu'on envoie par poste, qu'on distribue nous-mêmes, articles dans les journaux pour les ciné-débats, sur l'écologie, sur l'agriculture, tout ça, c'est des thèmes qui sont importants chez nous. On a eu des thèmes différents. On a fait venir un monsieur qui avait fait un documentaire sur Madagascar. C'était très intéressant. Il était là pour projeter son film. Donc, il était venu faire une petite tournée en Charente. Barbezieux, Angoulême, parce qu'Angoulême, c'est le CNBDI, qui est dirigé par M. Marchal. Donc tout un petit réseau qui fait qu'on maintient la culture en milieu rural. Voilà. Avec du bénévolat à la clé. D'ailleurs, tous ces petits villages-là, ces petits bourgs de 3000 habitants, ne vivent pratiquement que comme ça. Il y a 50 associations, par exemple, dans Confolens. Sportives, culturelles, musicales, de tout, quoi. Ça ne vit que par association, beaucoup de bénévolat. C'est sans doute la clé.
Je ne sais pas si vous pouvez répondre à la question, mais est-ce que la tendance est, ce serait très optimiste, il y a d'autres ouvertures de cinéma dans des communes comme la vôtre, ou est-ce que c'est le maintien, ou est-ce que c'est la fermeture plutôt, enfin la diminution, voilà.
Ah, il n'y a pas de création, hein, je ne pense pas. Ce cinéma, il avait été ouvert il y a 25 ans, donc il a fallu prendre le train en marge de la numérisation. Tout ça avait un coût, hein, ça a dû coûter 600 000 euros.
C'est les collectivités locales. Qui
voilà. On vit avec 15 ou 20 000 euros de subventions, mais il n'y a pas de création.
Il y a d'autres questions.
Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Solidarité Nouvelle face au chômage? Parce que vous êtes la plupart, dont nous aussi l'association Plateau. La problématique, c'est l'embauche, pouvoir avoir des personnes qui travaillent avec nous. Moi, je suis financée par... j'ai fait le choix de revenir à la campagne, à mes origines et de travailler ici. Donc j'ai accepté un CUI-CAE. Mais mon CUI-CAE est financé pour que ça ne coûte 0 centime à l'association, en partie donc par Pôle emploi. Mais tout le reste, jusqu'à 115% du SMIG, c'est par l'association Solidarité Nouvelle face au chômage. Ça ne coûte rien. Mon salaire ne coûte absolument rien à l'association. Ça dure pendant un an, renouvelable. C'est 9 mois, renouvelable 9 mois supplémentaires. Ce qui peut, pour une association, pour la redynamiser, la booster à un moment, être vraiment quelque chose. C'est une association qui était principalement sur Paris, qui a des antennes un peu partout en province, mais a du mal à trouver des bénévoles, parce qu'au départ, ils ont besoin de bénévoles. Bien souvent, ce sont des retraités qui sont leur relais en province, mais sont très mal couverts dans notre région. Ils demandent que ça, ce que des personnes les sollicitent pour pouvoir mettre en place une structure. Donc, moi, je suis à Loudun. Mais j'ai été gérée, en effet, par Paris directement, parce que je venais de Paris.
D'accord. Et ça s'appelle comment, alors ?
Solidarité Nouvelle face au chômage, SNC. C'est la seule association qui propose un financement, une subvention, qui peut s'ajouter aux subventions Pôle emploi dans le cadre de CUI-CAE. Oui. C'est la seule autorisée. Je sais que cette année, ils n'ont pu utiliser que la moitié de leurs fonds.
C'est pas incroyable.
Oui. Et ils souffrent du fait qu'il n'y a pas encore de communication par rapport à ça. Ils essayent de faire le maximum, mais pour l'instant, ça a énormément de mal à venir en région. Ils essayent de se faire connaître par Pôle emploi. C'est eux qui se sont battus pour qu'il y ait des demandeurs d'emploi qui soient au ministère du Travail à discuter sur les problématiques de chômage. Enfin, c'est vraiment une association très chouette. Et, il s'appelle SNC, autrement, si vous cherchez sur Internet. Par des grandes entreprises du mécénat, et des très très grosses entreprises du CAC 40, ils ont un portefeuille financier énorme.
Merci beaucoup pour l'information. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres remarques sur autour du cinéma, galerie? Sinon, on passe au théâtre. Ce qui m'intéressait donc dans l'expérience de Noctilus Théâtre, c'était le lien avec l'entrepreneuriat, mais il faut préciser, il faut présenter aussi ce qu'est Noctilus, mais si tu peux mettre l'accent un peu là-dessus, voilà.
Donc bonjour à tous, Didier Nourisson, comédien et conteur. Vous m'entendez?
Oui.
Bon, je vais peut-être pas utiliser le micro.
Ben, c'est pour l'enregistrement, par contre.
C'est pour l'enregistrement, autant pour moi. Alors je vais utiliser, mais je vais parler moins fort pour l'enregistrement. Donc Didier Nourisson, comédien, conteur au sein de la compagnie Noctilus et directeur artistique de la compagnie. Alors justement, tu viens de présenter le lien entre théâtre et entreprise. Histoire de vous faire participer un peu, bah d'après vous, pourquoi théâtre et entreprise ? Ça évoque quoi pour vous, théâtre et entreprise ? Madame ? La comédie humaine, ouais. Quoi d'autre comme réflexion, théâtre et entreprise ? Ah, vous n'aviez pas prévu de parler comme ça spontanément ? Monsieur, théâtre et entreprise, spontanément ? Ouais. Ouais. Chacun une forme d'entreprise. Madame, théâtre et entreprise. Lesquels sont les comédiens ? Oui. Pardon ? Des hommes et des histoires. Super lien. Alors là, on me tend une grande perche. D'autres réflexions ? Théâtre et entreprise, le lien ? Madame ? L'importance, c'est la communication. Oui. Monsieur ? La participation, la création. Bon, on a déjà pas mal de mots-clés qui relient théâtre et entreprise. Alors nous, au Noctilus, notre démarche artistique, elle tourne autour du fait de créer un lieu qui permette à l'homme de comprendre son histoire au travers des histoires racontées. C'est un petit peu le principe du théâtre. Mais on va centrer notre travail sur vraiment la compréhension de nos actes, de nos pensées en société et au niveau individuel aussi. Pour ce faire, on a décidé de travailler auprès de tous les types de publics. Dès la création, en 2002, on était à l'origine à Tours et puis on s'est déplacé à Chiré-en-Montreuil, donc petit village de la Vienne, basé à côté de Vouillé, moins de 1000 habitants. On est en milieu rural aussi. On a d'ailleurs des offres d'emploi régulières où on a des comédiens qui viennent de toute la France postuler dans notre petit village de Chiré-en-Montreuil. Comme quoi, vous voyez, on arrive à fédérer même des comédiens de Paris qui ont envie de venir chez nous faire du théâtre interactif. Et donc, on a décidé de travailler auprès du public scolaire avec un outil qu'on appelle le théâtre forum. Très brièvement, le théâtre forum, c'est le fait de mettre un groupe en situation de jeu face à une problématique sociale. Un personnage dans une scène a du mal à se sortir de la problématique, de la situation. Il va faire un mauvais choix qui va occasionner forcément des conséquences qui peuvent être désastreuses ou complexes. Et donc on va réfléchir avec le public. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette scène ? Quelle est la problématique ? Et évidemment, arriver à la question de bah, si vous aviez été à la place de ce personnage, comment vous auriez pu faire pour éviter tout ce qu'on vient de voir ? Et on va faire lever le public qui va rentrer dans la scène et proposer sa solution. On fait cette activité depuis 2005. Et puis, très vite, on s'est dit, ça ne suffit pas, il faut qu'on touche plus de public. Et comme notre objectif était de toucher un maximum de public, on s'est dit, il faut qu'on touche les parents, parce qu'il y a plein de sujets. Nous, on travaille sur tout ce qui est violence, violence verbale, violence physique, les violences faites aux femmes, les violences conjugales, le harcèlement, le cyberharcèlement, la discrimination, la santé, les addictions, la sexualité, les relations affectives. Bon, mais il y a plein de sujets, l'alimentation, ça concerne plus les parents. La place des écrans dans la famille. C'est bien beau d'intervenir auprès d'un ado sur le cyberharcèlement, mais il faut peut-être former les parents aussi. Donc on s'est dit, on va faire du théâtre débat, basé sur du théâtre d'illustration, et on va le fixer autour de la parentalité, avec des parterres de parents pour réfléchir ensemble. Évidemment, ça ne nous a pas suffi. Et on s'est dit, mais il faut qu'on aille jusqu'au bout de notre logique. On ne peut pas être partout. Trois comédiens en intervention, c'est aussi un budget sur une journée. Donc il faut aussi qu'on puisse former et qu'on intervienne auprès des professionnels. Donc dans un premier temps, on est intervenu en formation professionnelle plutôt dans le milieu socio-éducatif, médical, à l'aide du Théâtre Forum pour rentrer en formation. Donc là, on va travailler sur la mise en situation, évidemment, des personnels face à une situation. Donc on a travaillé sur la relation client en entreprise, mais on a pu travailler aussi sur la prise en charge des violences conjugales, et notamment d'une victime. On a pu travailler sur la prise en charge des parents, et notamment des papas, dans la petite enfance. Enfin, voilà, différents types de domaines d'intervention. Et puis, de fil en aiguille, en 2009-2010, des entreprises ayant entendu parler de nous, nous ont demandé de plus en plus d'intervenir au sein de leur entreprise. Alors, toujours avec l'outil Théâtre Forum ou Théâtre Illustration, dans un premier temps sous forme de prévention. Donc on a pu travailler notamment sur l'addiction au travail. Encore cette année, on va travailler par exemple du côté de la Vendée avec une organisation patronale sur l'addiction au travail et comment prévenir dès le CFA les jeunes, prévenir aussi les parents, prévenir aussi les professeurs et comment les professeurs peuvent l'intégrer aussi dans leur cours. Et puis intégrer aussi les artisans, les chefs d'entreprise sur comment on fait pour traiter de ce problème avec un salarié qui a un problème d'addiction au sein du travail. Et puis, de fil en aiguille, eh bien, on nous a demandé aussi bien d'autres choses, du théâtre d'illustration, donc là, de faire carrément un spectacle pour l'entreprise. Alors, c'est une démarche particulière, puisque c'est une équipe de comédiens, d'artistes. Alors, dans la compagnie, on a des comédiens, mais pas que, on a des musiciens, on a des peintres, on a des auteurs, on a des danseurs, enfin, voilà, et en plus, ce sont des artistes pluridisciplinaires. Et cette équipe d'artistes, donc qui peut monter jusqu'à 5-6 personnes, on est 12 en tout, 5-6 personnes qui peuvent s'installer en résidence dans une entreprise pour créer un spectacle d'entreprise, soit pour un événement d'entreprise, qui peut être l'assemblée générale, qui peut être un colloque, un séminaire, une formation, enfin que sais-je, soit pour communiquer, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure justement dans les mots-clés, soit pour sensibiliser, et... plutôt que d'être dans notre salle de spectacle en résidence, enfermée, on s'est dit, non, il faut autant faire que peu se mettre directement dans l'entreprise. Donc, faire ouvrir l'entreprise aux artistes qui vont s'installer dans l'entreprise et proposer un ensemble d'activités sur une phase de résidence de plusieurs jours qui peut comprendre, évidemment, du théâtre forum, de formation, auprès des personnels, qui peut comprendre aussi du théâtre d'illustration, de sensibilisation sur des thématiques diverses et variées, mais aussi pouvoir organiser, par exemple, une veillée comptée familiale au sein de l'entreprise. Et d'un seul coup, voir l'entreprise non plus comme uniquement un outil de production, mais aussi un lieu de spectacle où on peut se retrouver et vivre quelque chose en collectivité familiale avec ses enfants, et se retrouver à l'intérieur. Et puis, dernière activité aussi qu'on fait plus ponctuellement, c'est ce qu'on appelle du théâtre invisible. Donc le théâtre invisible, c'est le fait de voir une représentation de théâtre, un sketch joué, sauf que personne ne sait que c'est du théâtre. C'est une grosse surprise. Donc ça nous est beaucoup demandé sur des séminaires, sur des temps de formation pour réveiller le public, pour sensibiliser, notamment par exemple sur la discrimination. On nous a demandé en région centre, où d'un seul coup on a une scène de discrimination qui va se dérouler au milieu du public. Et on voit comment les gens se positionnent face à cette situation. Évidemment, personne ne sait que c'est véritablement du théâtre. Évidemment, au bout d'un moment, ils vont s'en rendre compte quand même, parce que on a tendance à brailler fort. Donc forcément, ça fait un petit peu impressionnant. Mais au début, c'est pas toujours compris comme du théâtre. Et puis aussi, à la fin des... par exemple... Cet après-midi, on aurait pu imaginer une équipe de comédiens installée au fond de la salle qui prend des notes de tout ce qui se passe, tout ce qui se dit et qui va résumer ou donner une représentation de tout ce qui s'est dit dans l'après-midi sous la forme de sketch à la fin de la journée. Voilà, avec une petite phase de 10 minutes d'écriture très rapide. On est très habitué évidemment à tout ce qui est improvisation et pouvoir réagir sur toutes ces thématiques.
Merci Didier pour l'instant, oui. Est-ce qu'il y a des remarques ?
Oui, alors je tourne ma casquette, je prends ma casquette de consultante en management. est-ce que vous intervenez, enfin, je pense que j'ai eu la réponse avec notamment le théâtre invisible, avec les cabinets de conseil, justement, pendant des interventions de formation aux équipes de management ou aux équipes dans les entreprises, justement, sur ces problématiques de discrimination, d'accompagnement, de gestion de la colère, de gestion des conflits, etc. etc. Vous travaillez en lien avec eux ou pas ?
Alors, pour le moment, non.
Non.
En répondant franchement, non. On a travaillé auprès d'institutions, donc devant un parterre de chefs d'entreprise ou de managers, notamment sur la discrimination à l'embauche, la discrimination en entreprise, qui parfois peut être légèrement cachée, ou même le recruteur ne se rend même pas compte qu'il est en train de discriminer, parce qu'il y a certaines discriminations qui sont inhérentes, voilà, qui sont un peu cachées.
Je ne suis pas très bien, parce que donc comme c'était mon métier d'avant, et avant, maintenant. J'avais une deuxième question. Par rapport à celle-ci, c'est parce que on n'est pas venu vous chercher, ou vous n'êtes pas allé démarcher les cabinets, ou vous n'avez pas besoin d'eux.
Alors, parce qu'on n'a pas démarché les cabinets dans un premier temps, on n'est pas venu nous chercher non plus. Et c'est vrai que là, depuis 2 ans, on commence à être un peu victime de notre succès, puisqu'on met en place une toute petite communication, mais c'est le bouche à oreille qui fait tout.
Est-ce que vous êtes sollicité plus particulièrement, quand vous parliez des problématiques d'addiction, notamment sur les lieux de travail? Je sais, pour l'avoir vécu, que c'était quelque chose de très, très, très important sur les sociétés qui font de la maintenance sur les sites Céveso, et qui ne savent pas gérer ça.
Alors là, il faudrait que nous acceptions aussi d'avoir un salarié pour rentrer dans les appels à projets, et notamment sur tous les marchés publics, etc. Et pour le moment, on n'a personne qui fait ça dans la compagnie. Donc ça ne... Ouais, c'est des privés, d'accord. D'accord. Bah, pour le moment, non, on ne l'a pas fait, mais on peut être amené à faire. Ouais, ouais.
Peut-être pour diversifier encore les formes culturelles, je profiter de la présence de Franck Buffeteau parmi nous, peut-être pour faire un petit retour en arrière, pas si long que ça, pas si loin, sur ce qui s'est passé à Bouillé-Saint-Paul, à son initiative pour une grande part, sur espace public et art de la rue.
Oui, bonjour, donc Franck Buffeteau, je suis architecte urbaniste. Aussi une autre casquette de metteur en scène, ça c'est plus dans la passion de l'accompagnement aujourd'hui, mais ça a conduit certaines choses, en particulier sur ce que dit Jackie sur Bouillé-Saint-Paul, qui était de mettre, ça s'appelait Territoire en marche, qui était de dire comment dans la perception de l'espace public, dans l'appropriation de l'espace public, on se sert de la pratique artistique sous quelque forme pour impliquer une participation différente et se servir aussi de la notion de la marche, parce que ça c'était l'autre thématique sur laquelle on travaillait. C'est-à-dire que l'échelle change. Aujourd'hui, l'échelle de la voiture a complètement changé la perception sur ces espaces-là. Et de se servir de la marche redonne autre chose autour de ça. Et donc, dans le principe sur lequel moi je travaille beaucoup aujourd'hui, dans une petite structure que j'ai créée, c'est de comment, très en amont sur l'implication de ce qu'on a fait à Bouillé-Saint-Paul, on a une thématique ou une problématique à faire ressortir auprès des collectivités dans leur aménagement de leur espace public ou la définition de leur lieu culturel. Je donnerai un exemple qu'on est en train de mener aujourd'hui. C'est comment on s'appuie sur les pratiques artistiques, des compagnies entre autres, qu'elles soient plus dans l'expression théâtrale comme vous le faites sur le théâtre forum ou sous d'autres formes, pour révéler autrement, ramener autrement au niveau du regard, enlever ces barrières qu'il y a entre le sachant et celui qui dit, ben, s'il le dit, c'est certainement c'est vrai, mais qu'on ait une autre approche autour de l'espace public et que les habitants soient aussi capables d'en parler, de ressentir ce qu'ils, enfin, dire ce qu'ils ressentent sur l'espace public, ce qui nous amène derrière à mettre en place des actions pour que les gens ne soient plus utilisateurs d'un espace qu'on leur a conçu, mais qu'ils soient partie prenante et se disent cet espace-là, on y a participé, on y a créé. Et juste avec ce double regard qui est intéressant. Et, alors, Bouillé-Saint-Paul, c'est très intéressant. C'est une démarche qu'ils ont menée aussi parce qu'on s'appuyait sur une commune dont le maire a cet objectif-là aussi de travailler.
fait un festival des arts de la rue tous les ans. Alors Bouillé-Saint-Paul, pour vous dire, c'est 450 habitants. Donc les compagnies qui viennent sur Bouillé-Saint-Paul, c'est les mêmes que vous retrouvez à Aurillac ou à Chalon-sur-Saône. Et donc ils viennent dans un esprit différent. C'est-à-dire quand tout à l'heure, vous parliez des artistes qui vendaient des tableaux à 3500 euros quand ils viennent chez vous, chez l'autre endroit dont vous parlez. Là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'ils sentent qu'il y a une approche qui est un peu différente et qu'ils se travaillent de cette manière-là. Et aujourd'hui, par rapport à la thématique dont vous parlez, qui était aujourd'hui lieu culturel, et puis est-ce que c'est force de créativité, c'est la manière dont on aborde des choses qui est intéressante à prendre en compte. Là, on travaille en ce moment sur une commune qui est 17 1500 habitants, où la question qui était de base, c'était de dire on veut faire une salle polyvalente qui puisse accueillir des spectacles. Parce que nous, on n'a pas eu droit à avoir des spectacles sur notre territoire. Bon, alors on se dit oui. La réponse tout de suite, ça a été de dire bon, il faut 400 places debout, etc., etc. Et moi, on m'a demandé d'intervenir pour, d'un point de vue participatif, pour aider à choisir le lieu où pourrait s'implanter la salle des fêtes. Et on a inversé le processus en disant mais ce lieu-là, qui est un lieu un peu particulier, quelle est l'histoire finalement qu'on a envie de raconter autour de ça, pour que les habitants se reconnaissent dans ça, et que l'implantation de l'équipement culturel vient après, c'est-à-dire une fois qu'on sait exactement qui on est et ce qu'on fait sur ce territoire. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je raconte, mais on prend le problème à l'inverse. Non pas de dire, les gens vont arriver sur une réunion publique en disant « Ah oui, la salle, c'est bien, oui, elle nous plaît, non, je ne suis pas d'accord, parce que la cuisine, il y a deux portes qui s'ouvrent dans le mauvais sens. » C'est de dire, finalement, si on la met sur ce site-là, qui est un site naturel, c'est le cas présent à Louzy, j'ai dit Dissé, mais c'est Louzy, sur cette commune-là, il y a un site qui est exceptionnel, qui est un espace naturel. Si on le resitue dans un contexte, parce que ce site-là, tout le monde vient pique-niquer, vient se faire prendre en photo en mariage. C'est un site qui existe depuis le XVIe siècle, etc., qu'aujourd'hui, on a complètement oublié. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on fauche pour que les photos soient plus belles quand on vient se faire prendre en mariage. Donc, on inverse ce processus. Et on a donc dans 8 jours, on amène la population à regarder autrement avec une scénographe qui travaille sur des observateurs du paysage. Là aussi, c'est une artiste pour pouvoir définir le programme et rentrer dans ce processus. Et Bouillé-Saint-Paul, je te repasse là-dessus, a été intéressant là-dessus. C'est-à-dire que le maire, il a mis 12 ans avant d'aménager sa place de village parce qu'il a démonté tout le système comme ça en recrutant une compagnie artistique qui a inséré un paysagiste à l'intérieur de l'équipe et non pas le contraire. Donc, ce qui fait que le regard a complètement été décalé et que l'équipement culturel, qui est le château avec la mairie qu'ils ont fait autour, est vraiment un élément du développement culturel parce qu'ils ont mis le festival des arts de la rue et que les gens qui habitent dans les villages et les hameaux le reconnaissent comme étant un équipement qui leur appartient et non pas se dire c'est l'équipement du centre-bourg et ça ne m'intéresse pas. Voilà, c'est juste pour dire comment on aborde ces éléments-là.
Juste une précision, peut-être où est-ce qu'on peut te joindre avec ta structure ?
Où est-ce qu'on peut joindre, s'il y en a qui sont intéressés, il y a un numéro de portable. C'est, aujourd'hui, c'est ce moyen parce que je suis un peu en free un peu partout, quoi. Même si je suis basé à Rochefort en Charente-Maritime. Voilà. Donc, s'il y en a qui veulent, je peux vous donner le numéro de portable après.
Merci Franck. Et Bouillé-Saint-Paul, juste une précision, nord des Deux-Sèvres. Hein, voilà. Et on avait à cette occasion... Moi, ce qui m'avait frappé, c'est le nombre d'élus qui avaient accepté de participer à cette journée. C'est assez rare pour le signaler. Voilà.
C'est Louzy à côté de toi.
Très, très intéressant. Comment ça se traduit, par exemple, en termes d'architecture ? Parce que vous parliez d'un lieu naturel exceptionnel. Je pense que ce lieu, il faut le préserver.
Pas forcément. Oui, alors voilà. C'est que... Alors c'est un lieu qui aujourd'hui a été, quand on regarde sur la carte de Cassini, c'est pour ça que je dis le XVIe siècle, le lieu il apparaît. Donc c'est, je ne sais pas si tout le monde visualise la carte de Cassini, les cartes historiques. Donc souvent il y a dessiné l'église au loin, un peu de forêt, etc. Et là il y a le jardin, parce que c'était un clos du château, qui est dessiné, et une ancienne allée qui allait en direction du château de Thouars. Même les habitants, si on dit ça, c'est que cet espace-là, eux, ils le vivaient comme un endroit où ils viennent toujours pique-niquer, ils venaient pêcher, etc. On s'est aperçu qu'au niveau espace naturel, enfin, ce n'est pas un espace naturel pour l'instant, mais il y a des batraciens qui sont assez exceptionnels, qui sont apparus sur cet espace-là. Alors, les élus, dans leur part, ont dit « Oh là 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 là, on ne s'embarque pas là-dessus, parce que si on commence à mettre l'environnement dans l'affaire, on ne va plus rien faire là-dessus. Donc le comportement des élus, c'est de dire on en parle le moins possible, on verra après, quoi, d'accord ? On verra si personne ne voit, on va arriver quand même à l'implanter là. Bon, maintenant, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça ne se passe pas comme ça. Donc s'il y a une zone humide aussi, et plutôt de vivre comme une contrainte, le fait, moi, d'arriver... Alors on est en plein dedans, donc le résultat, il n'est pas encore là aujourd'hui. Mais j'ai amené le principe en leur disant, mais finalement, si c'était un super atout pour vous, ça, et que de se dire que votre salle des fêtes qu'on va implanter là, plutôt que ça soit une salle des fêtes commune, elle soit autre chose. Et on a commencé à travailler avec les élus. Aujourd'hui, il y a un des élus qui dit qu'il est un agriculteur. Je dis ça parce que souvent, ils sont très, très. J'ai des amis qui sont agriculteurs, mais parfois, ils disent, hop, on ne pourra plus rien faire. Il y a un agriculteur qui dit, mais si on se réservait une partie de la salle des fêtes, et si c'était les habitants qui la construisaient, parce que ça nous permettra de mieux voir le paysage qui est autour, quoi. Et donc, dans ce site-là, on est en train de les emmener de dire, mais allez-y à fond, faites un espace naturel sensible. Mais alors, l'espace naturel sensible, c'est une forme de label qui est au niveau national, qui permet de préserver des espaces, mais surtout qui doit être ouvert au public. Et dans le nord de Thouars, entre autres, il y a 5 ou 6 espaces naturels. Et donc, on inverse le processus en disant, mais travaillez sur l'espace naturel sensible. Il y a la qualité de l'eau qui est là. Travaillez autour de ça. C'est une porte d'entrée vers la vallée du Thouet, par exemple. Et à partir de là, l'équipement que vous allez installer dessus, c'est l'objectif dans mes habitants, c'est de dire, ben, ce n'est plus une salle des fêtes, mais c'est un lieu où vous créez quelque chose au quotidien qui vous permet de lire le paysage et qui vous permet d'entrer dans la vallée du Thouet et qui vous permet d'entrer sur l'espace naturel sensible. Voilà, je ne sais pas si je suis... Oui, je me méfie toujours sur le terme d'interprétation, parce qu'aujourd'hui, les habitants se disent « oui, c'est un espace d'interprétation, donc un musée, donc je vais rentrer, je vais consommer, je repars ». Là, l'idée, c'est de se dire « fabriquons ensemble cet espace d'interprétation ». Mais c'est ça, c'est un peu ça l'idée. Oui, ouais, c'est ça, mais on construit quelque chose au quotidien. Moi, j'interviens beaucoup avec eux là-dessus en disant « mais si vous, les habitants, vous avez des choses à raconter, comment vous les racontez par rapport à cet espace et à ce lieu culturel ?» Et ça, voilà, c'est un peu l'objectif là-dessus.
Mais ça veut dire qu'il y a quand même toute la partie salle des fêtes. Ça veut dire que dans ce lieu-là, il y aura forcément une partie assez importante, de plusieurs centaines de mètres carrés, je suppose, qui sera, entre guillemets, vide et à disposition des habitants. Oui. Ou est-ce que c'est l'ensemble du lieu qui vit et qui se démonte
Alors, pour l'instant...
Je suis très précis, comme vous...
Alors, sur l'équipement lui-même, si c'est ça la question, pour l'instant, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on est dans la phase de programmation. Peut-être qu'on peut arriver à quelque chose qui se démonte, effectivement. Ce n'est pas l'objectif des élus, hein. Ils ont déjà un programme qui leur a déjà été écrit, qui est bétonné, etc. Maintenant, c'est d'infléchir un peu la tendance pour se dire qu'il y ait des espaces interstitiels entre l'espace extérieur et puis l'espace figé, pour que là, il se passe des choses. Mais je prends un exemple, et c'était dans le cadre d'une des rencontres de créativité territoire. Et il y avait, j'ai oublié son prénom, mais du Carladais qui était venu ici. Nadine Vignolo, que j'ai rencontré dans le Carladais, c'était hyper intéressant. C'est-à-dire, ils sont partis du processus aussi de dire, on va créer des balades sur un lieu. On donne une thématique, on crée une histoire ensemble. Aujourd'hui, ils ont créé un équipement qui est à la fois salle des fêtes, qui est à la fois musée de la forêt, avec un jardin qui est aux côtés, qui est lieu de répétition, lieu de fabrication au niveau des associations. C'est un peu l'exemple dont je me sers pour emmener les gens de Lousy autour de ça. En disant, vous voyez, l'équipement, il n'est pas uniquement un espace que vous allez mettre dur comme fer, mais on sait qu'il est polyvalent et qu'il va se passer des choses. Alors, il ne s'agit pas que ce soit une polyvalence à outrance, mais dans une polyvalence nuancée qui fait que les gens ont un moment ou un autre, ils s'impliquent dedans. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais voilà, c'est ça.
Tu veux dire un mot sur ton rôle de metteur en scène dans la troupe que tu accompagnes ?
Alors, juste un mot, je ne voudrais pas monopoliser la parole, je suis navré parce que je suis... Bon, donc moi j'ai créé une troupe de théâtre amateur à Rochon en Charente-Maritime il y a 20 ans, parce qu'on a 20 ans presque jour pour jour là, donc voilà. Et en plus j'ai mis en place un réseau de troupes de théâtre amateur pour fédérer, donc aujourd'hui il y a 12 troupes de théâtre amateur, et ce qui nous permet qu'aujourd'hui on est reconnu par les élus comme étant... un réseau qui est aussi force de développement local. C'est-à-dire qu'on impulse des projets. Alors, c'est mon côté peut-être urbaniste ou architecte aussi qui fait que j'impulse ça, mais je ne suis pas tout seul. Hein. Aujourd'hui, c'est
L'ensemble des troupes, ça représente 130 comédiens, plus les jeunes, ça fait 200. Il y a deux jours, on faisait le bilan, 200 comédiens sur l'ensemble des troupes concernées. Alors, vous n'en avez qu'une 20, 25 qui sont hyper actifs sur l'ensemble, mais qui permettent, c'est-à-dire, quand on est dans la révélation du patrimoine, de répondre à des projets bien particuliers. On n'est pas là pour venir mettre du spectacle pour mettre du spectacle. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du radeau de la Méduse. Aujourd'hui, c'est... Alors, vous en avez la primeur, parce qu'on n'a même pas encore choisi l'artiste, c'est en train de se faire. Le radeau de la Méduse, qui est une reproduction qui a été mise dans le musée de la Marine à Rochefort. Le musée de la Marine nous a dit, est-ce que le réseau vous est intéressé à porter quelque chose? Alors oui, pourquoi pas? Parce que c'est un élément de développement local, qu'est-ce qu'on en fait là-dessus, plutôt que pour les touristes. Et donc, on est en train, nous, de se rapprocher d'une artiste professionnelle, qui est de Marseille, qui, elle, travaille beaucoup sur la mort et sur les problèmes de... Alors là, le radeau de la Méduse, tout le monde connaît, c'est le problème de l'anthropophagie, entre autres. Et donc, qui, elle, a déjà un projet elle-même sur la mort et sur le fait de commenter cette œuvre sur le radeau de la Méduse. Donc, on s'est rapproché d'elle et on va monter pour le bicentenaire, le triste bicentenaire du radeau de la Méduse. On va avoir un travail aussi qui implique toutes les compagnies et qui implique aussi les acteurs, le réseau des musées, voire même le réseau des bibliothèques, etc. Voilà. Donc on est dans ce processus-là.
Merci pour toutes ces précisions, Franck. Puisqu'on a un photographe dans la salle, je ne sais pas s'il veut intervenir avec son regard photographique, présenter, et peut-être son exposition est encore en cours.
Oui, voilà. Donc bonjour, je suis Sébastien Gaudreneau, donc photographe et vidéaste aussi. Je dis vidéaste parce que je travaille notamment aussi avec une compagnie de théâtre et de danse, donc je pourrais en reparler peut-être ultérieurement. Oui, c'est important que je puisse préciser que là, il reste encore deux jours pour mon exposition. Ça vous permettra de découvrir un peu plus mes travaux. Donc l'exposition est à la Maison de l'Architecture à Poitiers, rue de la Tranchée. Donc elle sera ouverte demain et après-demain pour les Journées du Patrimoine. Moi, dans mon travail, c'est vrai que la question du territoire, de la créativité est toujours essentielle et toujours inhérente, mais notamment sur des points un peu plus précis. Je pense à un des derniers projets que j'ai pu faire avec l'hôpital de Niort, où j'ai réfléchi en fait à la place de la culture dans un lieu clos, un lieu un peu particulier qui peut être un hôpital. Et j'ai essayé de proposer dans cet hôpital de réfléchir à tout ce qui est salle d'attente et espace de circulation. Et se dire que dans ces lieux-là, la place de la culture est souvent assez absente, voire invisible. Et donc j'ai pu amener une proposition d'exposition permanente dans l'hôpital de Niort et de replacer justement la culture, la création, dans un lieu qui n'est pas forcément dédié à l'art. Je pense que c'est une des questions qu'on peut avoir en fait aussi par rapport à la culture, c'est des questions qui ont été évoquées aussi précédemment, c'est de se dire qu'on peut imaginer que la culture n'existe que dans les musées, n'existe que dans des lieux, des galeries, mais peut vraiment avoir une autre existence dans des lieux qui ne sont pas à la base faits pour ça. Faire une exposition, amener de la culture dans un hôpital, c'était une chose assez complexe. J'étais vraiment à l'initiative du projet. L'hôpital n'était pas... Ils étaient favorables au projet, mais ils n'ont pas été à l'initiative de ça. Tout simplement parce que la culture dans un hôpital, ce n'est pas une urgence. Il y a d'autres urgences, il y a d'autres problématiques, et c'est souvent quelque chose qui... Voilà, et mis de côté, même si hein, une vraie envie, une volonté de faire ça. Le projet a mis 5 ans à se faire. 5 ans, le temps de trouver, que je trouve des mécènes, des financeurs, le temps d'amener le projet de l'exposition, parce que ça s'est fait conjointement avec les cadres de santé aussi. C'est un projet qui s'est fait avec eux. Les photos n'ont pas été imposées. C'est vraiment une création que j'ai faite par rapport à leurs envies, leurs besoins. Et voilà. Et maintenant, en tout cas, l'exposition est présente dans 4 services de l'hôpital, en gériatrie, en psychogériatrie, en soins de suite et en oncologie. Et du coup, la place de la culture amène vraiment quelque chose de différent, dans le sens où il y a une utilité aussi bien pour les professionnels de santé, ceux qui travaillent dans l'hôpital, aussi bien pour les usagers, et aussi bien aussi pour l'image en fait, de l'hôpital, de revoir l'hôpital sous un autre aspect. Voilà. Donc ça fait partie d'un des projets qui est exposé d'ailleurs à la Maison de l'Architecture. J'ai d'autres projets aussi qui sont montrés, et notamment sur le regard qu'on peut avoir sur une ville. J'ai travaillé pendant un an sur la ville de Niort, et de travailler, on va dire, sur l'image qu'on peut avoir de cette ville-là. J'ai fait des photographies nocturnes, et par les prises de vue nocturnes, essayer de donner un autre regard en fait, sur la ville, et travailler sur les espaces qui sont toujours en dehors des parcours touristiques. Vraiment des lieux qui sont abandonnés, des lieux qui ne sont pas forcément repérés, et d'essayer d'y trouver un intérêt. Donc c'est aussi, je pense, la culture, un autre regard sur ce qui nous entoure. Et pas forcément là où on s'y attend. Se dire qu'on peut trouver des espaces qui sont intéressants alors que personne ne s'en occupe ou les regarde. Voilà.
Oui, bonjour, Florent Blinde, je suis historien de l'art. C'était pour rebondir sur ce que vous disiez, et puis qui fait écho avec les témoignages qu'on a eu aujourd'hui, c'est de dire que, évidemment, on est plutôt des gens de culture de par nos autres fonctions, mais on se rend bien compte que la culture, elle est utile là où elle n'est pas, surtout, et que c'est toute la démarche de militante qui est la vôtre, les intervenants d'aujourd'hui, mais vous avec votre témoignage et les hôpitaux. Donc du coup, Jackie m'avait demandé de présenter une autre initiative, mais puisque j'avais dit non, mais maintenant que la perche est tendue, j'en profite pour dire que je vais intervenir dans une entreprise où le dirigeant, donc Jean-Marc Neveu, qui est un proche, comme l'a dit Jackie, de la plateforme Créativité et Territoire, m'a sollicité pour me dire, voilà, je voudrais faire de mon entreprise, qui fait du thermoformage plastique, vraiment dans une acceptation industrielle très très classique, de dire, je voudrais faire de mon entreprise un lieu d'art, de mon entreprise, une œuvre d'art, quelque chose d'intéressant, un musée, une salle d'expo. Hein. Je lui ai dit tout de suite d'arrêter de d'abord regarder son entreprise différemment, et que la moitié des objets qui sont aujourd'hui dans son entreprise, il suffit d'ouvrir un bouquin sur le design à la médiathèque, la moitié des objets qui sont sur son bureau sont dans des musées et sont dans des livres sur l'art. Et qu'il y a déjà juste un autre regard à poser sur notre environnement. C'est un peu ce que Franck nous amène à faire quand il nous emmène en déambulation. Et c'est un peu ce à quoi j'invite aussi le reste du temps, de dire que la culture, elle est d'abord sous nos yeux et qu'il suffit d'un autre regard pour la déceler. Merci.
Merci Florent de ce témoignage. Justement, aujourd'hui, il manquait peut-être quelques intervenants qui ne pouvaient pas venir. Je pense à quelqu'un qui était dans les arts de la rue, qui prend un peu de distance avec ça et qui relance l'idée de crieur public. Ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant à regarder, justement, parce que pour ramener peut-être le théâtre là où on ne l'attend pas. Et voilà, il y a quelques autres témoignages, et notamment les journées d'automne seront consacrées à ça. Mais peut-être y a-t-il d'autres remarques, d'autres questions. Un mot sur le plateau quand même, puisqu'on est là. C'est quoi le plateau? Mais rapidement, parce que ça peut intéresser les gens du Maine-et-Loire.
J'ai beaucoup mangé de temps, je suis désolée, je me suis un peu laissée emporter, peut-être des fois hors sujet. Oui, l'association Plateau pour laquelle je travaille a comme volonté, comme objectif de promouvoir un territoire. Elle est partie du constat qu'il y avait un territoire à la croisée des trois grandes régions que sont donc Aquitaine, Poitou-Charentes, Centre-Val de Loire et puis Pays de Loire, la croisée de quatre départements, de Sèvres, Maine-et-Loire, Indre-et-Loire et Vienne. Et également, et moi je dirais surtout géologiquement, à la rencontre du bassin parisien, du bassin armoricain et du bassin aquitain. Ce qui fait que historiquement, mais aussi géologiquement, elle a beaucoup de choses à raconter. Ce qui fait qu'on a des paysages très particuliers, on a des bâtis très particuliers, on a une grande richesse à tous les niveaux. Et qui est assez méconnue, puisque la position géographique de cet endroit qu'on a renommé Pays Plateau, nous, fait qu'elle est un peu abandonnée par les différentes régions, puisqu'elle se trouve vraiment en lisière, en bout de là-haut, tout là-haut de l'Aquitaine, ça va être encore plus. C'est la même chose à Bouillé-Saint-Paul, d'ailleurs, Louzy, etc. C'est le même genre, puisque ça en fait partie. Donc, notre volonté, c'est de faire connaître ces territoires. Elle a aussi beaucoup de savoir-faire, puisqu'il y a beaucoup d'artisans et d'entreprises qui demandent qu'à être valorisées. Il y a une grande culture, notamment des métiers d'art. Donc, toutes ces choses-là. La volonté, c'est d'en faire la promotion, valoriser ce territoire par l'industrie audiovisuelle. On peut très rapidement se retrouver en Normandie, en, en Bretagne, du côté d'Argenton, où on a beaucoup de granit, bâtisse en granit. On a vraiment des paysages très, très, très diversifiés. Et les sociétés de production sont intéressées pour venir quand déjà ça correspond au scénario, mais aussi quand elles sont capables d'avoir des subventions. Ici, on a 3 régions capables de donner des subventions s'il y a un tournage sur la région. Et on a des bureaux d'accueil régionaux, mais qui se parlent difficilement, qui ont des bases d'informations, mais qui se parlent difficilement. On a donc une grande richesse, donc je le disais, de paysages. Ce qui fait le fait que ce paysage, que cette région soit un peu désertée et laissée pour compte, fait qu'en fait on se retrouve avec des paysages qui ne sont pas pollués. On n'a pas de pollution sonore, on n'a pas d'aéroport à proximité. La pollution visuelle, elle est moyenne. Il n'y a pratiquement pas de pollution, en tout cas, il n'y a pas de grosses entreprises. Donc il y a vraiment des infrastructures hôtelières capables de recevoir autant des stars que du staff de production, puisqu'il y a quelques résidences hôtelières aux quatre coins de ce territoire. Donc tout ça nous a fait penser qu'il était peut-être une opportunité de faire donc ce recensement de tous ces lieux, de tous ces lieux rares, de tous ces lieux non connus, de tous ces savoir-faire, de tous ces moyens techniques et artistiques, et de les valoriser, de les mettre en ligne sur Internet, et vraiment d'aller pister les choses le rares et authentiques qu'on peut avoir en se servant des conteurs, des gens qui vont et viennent, se promènent un peu partout, sortent des sentiers battus, découvrent des choses qui visuellement sont magnifiques pour de la photo, voilà. Et puis donc mettre en ligne ces choses-là. Ensuite, on a la volonté de faire une étude un peu plus approfondie pour créer carrément un pôle audiovisuel à 3 têtes, où il y aura donc des infrastructures pour les sociétés de production, post-production, mais qui sera également modulable, multifonction. Il y aura un endroit qui sera dédié à la télévision interactive, enfin à travers la télévision interactive, à des services à la personne, pour développer des offres de services pour les personnes isolées du territoire, parce qu'on a ce problème aussi dans le territoire, et pour retenir les jeunes, de monter un centre de formation qui sera pour les professionnels, mais également qui servira aussi à fédérer le bac audiovisuel qui se trouve déjà à Loudun, mais peut-être développé, puisqu'on a aussi maintenant 3 académies. Il y a des villes qui sont demandeuses, comme Saumur et Chinon, de développer aussi des baccalauréats audiovisuels, et également de développer quelque chose autour de tout ce qui est machinerie. C'est un peu le côté des graisseux, comme nous, en informatique, on avait les graisseux, c'était les technos, et puis il y avait les développeurs ce qui était bien. Donc il y a ceux qui font les films, et puis il y a tous les technos derrière dessous qui sont dans les lycées techniques. Et là aussi, il y a des choses à développer, puisqu'on est en manque de ce genre de choses en France. Et donc c'est de fédérer tout ce qui peut se passer sur ces 3 régions, ces 4 départements et ces 5 communautés de communes. Voilà, mais pour l'instant, on se bagarre pour avoir le suivi des politiques, parce que ça n'arrête pas de changer avec les élections. Mais voilà.
Merci pour merci pour le tableau. Est-ce qu'il y a des... Dans les intervenants, est-ce que quelqu'un veut intervenir? Sinon, il est 16h30. Je pense qu'on peut... Sauf s'il y a des interventions souhaitées. Oui, monsieur? Bien sûr, allez-y. Monsieur,
en fait, je représente l'Association pour la paix. C'est l'Association pour la paix en Syrie, culturelle. Une question pour M. Nourisson, pour les dates de présentation prochainement sur Chiré ou Poitiers.
Les prochaines dates de représentation de mémoire, parce qu'elles ne sont toujours pas sur le site internet, je n'ai pas mis à jour, donc il y a toujours le grand vide.
On va prendre le mail de monsieur et lui envoyer.
La seule date publique, parce qu'en fait il est très difficile de venir nous voir, pour une bonne raison, c'est qu'on est soit en entreprise, ou soit on est dans une institution, ou dans un établissement scolaire. Et dans un établissement scolaire, on ne peut pas rentrer comme ça pour venir nous voir, sachant en plus que souvent on développe des thématiques sensibles et que même certaines personnes de l'établissement ne sont pas les bienvenues pour libérer la parole auprès du public qui est là. Par contre, on est visible, je crois, aux yeux de beaucoup. Le 3 novembre sur Poitiers, il va y avoir un forum de prévention sur les addictions organisé par la PJJ Poitou-Charentes. Et nous serons présents toute l'après-midi pour faire des séquences de théâtre forum sur les addictions avec des jeunes qui sont en charge à la PJJ et puis au Conseil Général aussi.
Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci aux intervenants et à Massène Loire d'être venus de pas trop loin, mais quand même, les routes ne sont pas forcément faciles. Merci en tous les cas. Et je vous donne rendez-vous, parce qu'il n'y aura pas de table ronde, au 4e journée de la créativité dans les territoires. Mais vous recevrez un programme, vous verrez, et il est aussi dense sur 3 jours que cette demi-journée l'a été. Donc voilà, il y aura plein d'échanges possibles, puisque c'est le but de ces rencontres. Alors merci aux intervenants et merci à vous d'avoir participé à cette demi-journée. Voilà.